Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce climat parent live. Ce soir, je suis tout seul et je vais bien. Est-ce que vous allez bien, le chat? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Je suis peut-être un peu fort. Quoi de neuf chez vous? Moi, j'étais chez le coiffeur. C'était cool. Sature un peu le micro. Ouais, je vais le baisser. Ouais. C'est parce que je l'ai rapproché physiquement de moi. Hop. Merci. Ça devrait être mieux comme ça. Alors, ce soir, je suis tout seul. Je vous ai préparé quelques trucs dont on va discuter. On est une petite vingtaine, donc comme d'habitude, on va commencer doucement. Merci à ceux qui sont déjà là. Moi, ça va, Navislide, j'ai déjà mangé. Mais bon appétit à ceux qui me regardent en mangeant. Alors, je vous ai mis plusieurs choses de côté. Je vais commencer par... Si ça fonctionne, ça va fonctionner. Je le sais que ça va fonctionner. Voilà. Hop. Je vais commencer par discuter rapidement de la newsletter de l'ADEME. L'ADEME, j'ai pu critiquer quelquefois, notamment sur leur travail sur les voitures électriques, où il y avait quelques trucs à redire. Mais ils font aussi du bon boulot sur pas mal de trucs. Et leur newsletter peut être sympa pour ceux qui ne suivent pas. Et là, dans leur newsletter, il y a un petit article sur ce qu'est la transition juste, qui est une notion inscrite dans l'accord de Paris, hein, et qui en fait définit quelque chose d'assez précis. Et c'est notamment, on en a déjà parlé plusieurs fois avec Loïc, mais c'est notamment cette idée de... Je sais pas si on va la voir rapidement. En fait, l'idée de base qui a été introduite, il l'explique, hein, par des syndicats. L'idée de base, c'est de réussir à trouver des reconversions ou des opportunités pour les métiers qui seront directement impactés par la transition. On peut penser par exemple à l'industrie fossile, hein, qui va être forcée à réduire de voilure, ou à l'industrie automobile, hein, notamment tout ce qui est entretien, hein, des voitures thermiques. Les voitures électriques ont besoin de beaucoup moins d'entretien. Et donc là, se pose la question de qu'est-ce qui se passe pour ces activités socio-professionnelles et les personnes qui travaillent dans ces secteurs. Et la notion de transition juste, c'est... Cette idée qu'il faut trouver des débouchés et que ça permet de se faire des alliés de ces personnes-là aussi. Et donc ils expliquent d'où ça vient. Donc ça vient dans les années 90, de syndicats de travailleurs des industries de l'énergie et de la chimie aux États-Unis qui ont un peu poussé ça. Et ça a mis un peu de temps à se mettre en place, mais c'est une notion maintenant qui est présente, par exemple, dans la stratégie nationale bas carbone qu'on utilise en France. Et qui fait partie de, c'était mentionné au début, qui est mentionné dans le texte de l'accord de Paris, etc. Donc c'est pas mal comme format, ça permet de revenir un peu sur ces notions. C'est assez intéressant à lire. Attendez, je peux peut-être vous mettre le lien. Et il y a une petite clé à la fin sur. Voilà, c'est la transition juste vise à dédommager les intérêts privés des industries polluantes héritées du passé et de leurs travailleurs. Comme ça permet de pouvoir convaincre ces travailleurs et de les avoir avec nous. Comme ça, on pousse tous dans la même direction, ce qui est quand même mieux. Aujourd'hui, la transition juste a élargi son scope pour regarder qui émet, qui va perdre, qui va gagner et sur qui les efforts vont le plus peser afin d'être la plus juste possible. Donc, c'est vraiment une réflexion de, certes, la transition énergétique va demander des changements importants, et comment on fait pour qu'il n'y ait pas trop de casse, pour limiter la casse et que cette transition ne laisse pas trop de monde au bord du chemin. La transition juste doit également être la plus démocratique possible pour se réaliser. La transition peut avoir un impact positif sur les revenus et l'emploi, mais ne peut pas endosser l'entière responsabilité de la justice sociale. Ça aussi, je pense, c'est un point important parce que souvent, quand on va parler de transition écologique, de transition énergétique, on va nous mettre face à des problèmes sociaux qui ne sont pas résolus, et il n'y a pas de raison que cette transition résolve tout. Il y a des problèmes sociaux dont faut penser la résolution en dehors de la question de, enfin, en parallèle. Ce que je veux dire, c'est juste si on fait la transition écologique, ça va pas automatiquement tout régler. Et si vous avez des problèmes avec, je sais pas, les inégalités galopantes dans notre société, par exemple, bah, c'est un front, lui aussi, sur lequel il faut lutter. Et il n'y a pas de raison que ça se fasse tout seul si on fait une transition écologique. Et je partage, hein, ce point de vue, et j'ai beaucoup apprécié la vidéo de Philoxime sur les milliardaires et leur utilité sociale, qui doit être une des mieux notées d'ailleurs sur Tournesol. Yann Ducept, disons que je suis personnellement dubitatif sur le ratio financement des pollutions décarbonation de cette agence. Alors, je n'ai pas examiné leur bilan financier, et il y a pu avoir des rapports plus ou moins bien, mais il y a aussi du bon boulot. Franchement, il y a aussi du bon boulot. Puis c'est quand même une agence avec pas mal de personnes et qui développent des outils qui peuvent être intéressants. Et dans la même newsletter, ils montrent un petit outil qu'ils ont fait à partir de leur base de données où, en fait, si vous avez un site ou ça pourrait être sur le site du réveilleur, mais j'ai pas trop de texte dessus, mais à chaque fois qu'il y a une quantification comme ça de 100 tonnes de CO2, en fait, si vous cliquez dessus, à partir de leur base de données, ils donnent différentes comparaisons. Ils ont une base de données impact CO2 où il y a plein de produits et ça permet de convertir 100 tonnes de CO2 en paire de chaussures en cuir ou en pull en laine ou en heures de visioconférence. Vous voyez, ça fait beaucoup d'heures de visioconférence et ça fait beaucoup de gigaoctets de données. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de spam. Ça fait moins de téléphones. Donc voilà, si vous avez un site et que c'est utile pour vous d'avoir ce type de comparaison, ça peut être intéressant. Moi, l'autocar, là, j'y crois pas trop. Hein. Merde, j'aurais dû le garder. J'ai bugué trop tard. On va pas le retrouver. Donc voilà, c'était juste pour attendre un peu qu'il y ait des personnes qui arrivent. On est une petite quarantaine. Je sais pas si ça vous inspire des réflexions, mais ça n'a pas l'air. Donc on va pouvoir attaquer le premier gros sujet aujourd'hui. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu mettre de côté. Ma vidéo, parce que peut-être qu'on va pouvoir se passer quelques passages.
Bonjour à tous.
Alors, bonsoir, Scolopax 25. Donc, on va parler un peu d'une notion qui s'appelle le taux de retour énergétique. Je vais faire comme si vous n'y avez jamais entendu parler. Donc, le taux de retour énergétique, c'est quoi? Au final, attendez, je vais la trouver. Ouais, je vais la trouver, c'est par là. Quelque part. Il faudrait que je sorte les illustrations de mes vidéos. Ça, c'est chiant. Donc, taux de retour énergétique, c'est vraiment ça. C'est, on regarde pour un moyen de production quelle est l'énergie qui est délivrée et combien on a investi d'énergie dedans. Et là, on a eu un article qui est sorti hier dans Nature Energy, qui va l'évaluer au niveau de l'énergie utile. Alors l'énergie utile, ces notions hein, sont toujours assez compliquées de... Il est passé où mon... Ah c'est marrant, je suis sur Bing, je suis pas sur YouTube. Ces notions de convention dans le monde de l'énergie sont toujours assez compliquées, donc il y avait toute une partie dans ma vidéo sur le taux de retour énergétique qui s'appelait taux de retour primaire, secondaire, final et utile. Qui essaie d'expliquer ça. Donc vous voyez que vous avez l'énergie primaire qui est bah, par exemple le pétrole brut et ensuite vous convertissez ça en énergie secondaire, ça peut être de l'électricité en sortie de centrale. Ensuite vous avez l'énergie finale qui est l'énergie qui est vendue au consommateur, hein, que ça soit un industriel ou un particulier. Et l'énergie utile, ça va être vraiment l'énergie utile, quoi, celle qui vous rend le service énergétique. Donc par exemple, ça va pas être l'essence que vous mettez dans la voiture, mais ça va être l'énergie cinétique de la voiture. Et à chaque fois, vous avez des pertes, évidemment. Hein. Alors, il peut y avoir un cas où c'est supérieur à 1, notamment les pompes à chaleur. Il y a un coefficient de performance qui peut être plus grand que 1, mais dans la plupart des conversions énergétiques, on est quand même inférieur à 1. Donc vous avez des pertes à chaque moment de la chaîne. Et c'est très important de comprendre ces différences parce que ça a d'énormes influences sur la manière dont on pense la transition énergétique. Et notamment, il y a un truc qui, à mon avis, a été largement sous-estimé par un certain nombre de commentateurs, c'est que aujourd'hui, on utilise des technologies fossiles qui sont très inefficaces, beaucoup hein, à ce niveau-là. Voilà, le rendement moyen d'une voiture thermique de l'essence que vous mettez dedans à l'énergie cinétique, ça va être 15-20%, ce qui est quand même pas incroyable. Et ça, souvent, on le voit pas. Et la conséquence de ça, c'est par exemple que aujourd'hui, la mobilité légère en France, ça consomme environ 300 TWh de produits pétroliers. Et si vous remplacez en 1 pour 1 par des voitures électriques, vous avez besoin plus que 100 TWh d'électricité. Et si vous faites en plus des efforts de sobriété, évidemment, ça rend la transition plus facile. Mais voilà. Il y a besoin d'avoir ces conventions du monde de l'énergie parce que on a des évolutions technologiques qui font aussi évoluer ces rendements de conversion. Et il y a aussi des améliorations qui se passent après avoir vendu à l'utilisateur final. Et ça, faut vraiment le garder à l'esprit. Et ça, ça va être le gros point sur lequel ce papier s'est focus. Donc c'est pour ça que c'est important ici. Et alors attendez, je vais quand même aller sur YouTube parce que j'aimerais bien choper mon transcript.
Bonjour à tous.
Sous les vidéos, je vous mets évidemment les sources. Je vous mets aussi le texte avec les annotations. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est ce que j'ai dit à la fin, quelque part. J'ai dit utile un certain nombre de fois, mais je pense que ce qui m'intéresse. Je sais plus où je l'ai dit. Je pense que dit vraiment le taux de retour énergétique. J'aurais dû réviser ma vidéo avant. En fait, j'ai expliqué un peu les limites du taux de retour énergétique à plusieurs endroits, mais j'arrive pas à retrouver juste avec un contrôle F. Et y a un truc qui m'avait un peu gêné sur cette vidéo, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'évaluations qui se faisaient jusque-là, jusqu'au niveau final. Donc, en fait, qui se faisait l'évaluation du taux de retour énergétique. L'évaluation du taux de retour énergétique s'arrêtait ici, ce qui est un gros problème quand on pense la transition, parce que en fait, on remplace des technologies qui sont inefficaces. Le plus gros avantage qu'on a dans la transition énergétique, c'est que les ressources fossiles sont inefficaces. Quand vous mettez 1 kWh dans une pompe à chaleur, vous dégagez 3 à 4 kWh de gaz ou de fioul domestique. Quand vous mettez 1 kWh dans une voiture électrique, vous dégagez 3 kWh de pétrole. Quand vous mettez... Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme exemple? Et ça va être pareil pour des moteurs ou pour des... quand vous remplacez 1 kWh produit avec du charbon par 1 kWh produit avec du photovoltaïque ou de l'éolien, en fait, vous dégagez 3 kWh de charbon. Voilà, donc, ne pas prendre en compte ça quand on pense la transition énergétique, c'est vraiment une erreur qui est incroyable. Et un des gros problèmes que j'avais sur le taux de retour énergétique, c'est qu'une grosse partie de la littérature s'arrête là. Et encore, je suis sympa parce que, par exemple, une des grosses erreurs de la manière dont utilisait Jean-Marc Jancovici, dont il utilisait le taux de retour énergétique dans la BD, c'est que, en fait, il comparait des choses qui étaient évaluées à différents endroits. Et ça n'a pas trop de sens de regarder le taux de retour énergétique du charbon en sortie d'une mine, donc en regardant combien on a investi dans la mine pour sortir du charbon de la mine, et de comparer ça avec de l'électricité en sortie d'un panneau photovoltaïque. Parce que ça n'a pas du tout la même valeur ou la même praticité. Et donc ces réflexions, elles existent dans la littérature sur le taux de retour énergétique, et c'est pour ça qu'il y a des évolutions récentes qui viennent remettre en question ce qu'on en a dit pendant assez longtemps. Et ce papier, alors pour l'instant il est en accès libre, je sais pas s'il les restera, mais du coup vous pouvez télécharger le PDF et ça fait que il est assez c'est plus joli le formatage quand on est habitué. Donc voilà, un papier assez récent, on voit qu'il a été reçu il y a longtemps quand même. C'est marrant parce que j'aurais bien aimé avoir les détails du reviewing, mais on l'a pas. Il y a certains journaux qui le rendent accessible, les échanges entre les pairs, mais là on sait juste qui a participé et on n'a pas plus d'informations sur le contenu des échanges. Mais on voit que ça a été reçu le 9 juin, que ça a été accepté le 2 avril, et du 2 avril au 20 mai, il y a quand même eu encore un peu de temps qui s'est écoulé. Donc au moment où j'avais fait la vidéo sur le taux de retour énergétique, j'avais connaissance un peu de ces travaux ou de travaux similaires, notamment parce que un des auteurs avait fait un petit article de vulgarisation ici, où on voyait déjà des travaux au stade utile et la différence entre final et utile. Donc C'était attendu, hein. Mais après, on peut aussi faire des calculs assez simples et intuiter ce type de résultat. En fait, on sait ce qui va se passer un peu quand on prend en compte le stade utile, parce que les gains d'efficacité, on les connaît. On les connaît et ils sont pris en compte dans les scénarios de transition, etc. Ils sont juste ignorés par une partie des acteurs, je ne sais pas trop pourquoi. Il y a une croyance que les ressources fossiles sont incroyables, irremplaçables, et on va même pas jusqu'à se poser la question de ce type de rendement et de l'intérêt de dégager ces technologies et de les remplacer par des technologies beaucoup plus efficaces. Pourtant, c'est vraiment un truc qui nous facilite un peu l'existence. Alors, il y a quelques questions. Omelette au fromage, est-ce qu'il y a la même différence entre une entreprise sidérurgique, par exemple, tournant au pétrole et une autre tournant à l'électricité? Pour une voiture électrique, est-ce qu'il y a beaucoup de pertes lors de la charge? Alors, pour l'industrie, en fait, ça va beaucoup dépendre. On va y venir, ça va dépendre de comment l'énergie est utilisée et pourquoi faire. Donc, quand il y a besoin d'énergie mécanique, par exemple, ben, les machines thermiques sont limitées par le second principe. Donc, la quantité de chaleur que vous pouvez convertir en travail va dépendre de la différence de température entre votre source chaude et votre source froide. Donc, entre quelle est la température de combustion et quel est le refroidissement. Donc, si vous avez des grosses usines stationnaires, vous pouvez avoir un rendement qui est meilleur hein, qu'une voiture thermique. Le problème d'une voiture thermique, c'est que c'est un petit moteur. Si vous prenez une centrale fossile, vous pouvez avoir un rendement. Le charbon, il est à 40%. Vous pouvez avoir des centrales au gaz, je pense, qui sont à 60%. Et donc voilà, si vous avez des plus grosses machines, vous avez une meilleure conversion, mais n'empêche que vous avez de la chaleur. La chaleur, vous ne pouvez jamais la convertir intégralement en travail, et donc vous avez ces rendements qui sont là. Alors que si vous avez une machine qui est électrique, l'électricité c'est de l'énergie, c'est du travail à l'état pur, et le rendement maximal dans ce cas-là est de 100%. Donc quand vous remplacez des machines thermiques par des machines électriques, oui, il y a un gain d'efficacité qui est important. Par contre, si vous utilisez les ressources fossiles pour chauffer, bah là, vous n'avez pas ces problèmes de conversion. Vous avez directement de la chaleur. Et ça, pour remplacer l'électricité, ça dépend ce que vous faites. Si vous prenez l'électricité juste des phénomènes qui sont résistifs, eh ben, vous n'aurez pas ce gain-là. Par contre, si vous passez par des pompes à chaleur, vous pouvez l'avoir. Donc, on va voir un peu parce qu'il parle des différents usages et c'est intéressant. Mais c'est une très bonne question. On va pouvoir détailler un peu ça. Scolopax 25, pour une voiture électrique, est-ce qu'il y a beaucoup de pertes lors de la charge? Alors, ça va dépendre. On peut peut-être regarder parce que je pense que la chaîne EV avait montré que ça dépend pas mal des voitures. Donc vous voyez là, ça vaut ce que ça vaut hein, c'est des gars qui font des tests, vous trouverez peut-être mieux ailleurs, mais ils montrent que pour différents modèles, il y a j'ai pas vu, ils ont fait une moto. Ah, c'est marrant. 7 kWh au 100. Okay. C'est intéressant. Et en fait, ça, ils regardent l'écart entre ce qui sort de leur prise et ce qui est pris dans la machine. Donc là, c'est vraiment les pertes au niveau du convertisseur, etc. Et vous voyez que il peut y avoir des voitures où c'est important. Alors après, je sais pas combien ils font de mesures, etc. Mais en général, on considère que c'est entre 5 et 15%. Alors, il y en a quelques-uns qui sont encore au-dessus. Et ça, moi, je l'avais pris en compte dans la vidéo aussi. On peut faire ce type de calcul. Donc il y a ça à prendre en compte comme perte, et il y a aussi les pertes au transport et à la distribution, donc entre la centrale électrique et votre prise, et ça va être 2% pour le réseau de transport à haute tension, et puis 6% pour le réseau basse tension, c'est ce que je prends en général. Vous allez avoir 8% de pertes sur le réseau et puis des pertes à la charge. Voilà. Et le valier qu'on est en train de regarder, ouais, je peux peut-être vous le mettre dans le chat, et il faudra que je pense, alors je vais pas vous mettre mon truc, il faudra que je pense à le garder pour les sources. J'espère que ça va pas être trop compliqué, parce que le taux de retour énergétique, c'est pas la notion la plus simple. Donc vous voyez, l'idée, c'est de regarder à chaque fois, si on regarde au niveau de l'énergie utile, on regarde combien on a d'énergie utile, et ça on le divise par tous les investissements énergétiques qu'il y a eu sur toute la chaîne énergétique. Alors il y a un premier truc qui est intéressant, parce que si vous avez vu la vidéo sur le taux de retour énergétique, vous savez qu'il y a ça laisse pas mal de questions en suspens, hein. Une fois qu'on a dit qu'on divise l'énergie utilisée par l'énergie investie, ok, on la compte où l'énergie utilisée? Est-ce qu'on la compte au niveau primaire, au niveau secondaire, au niveau final, au niveau utile? Et puis les investissements, on compte quoi? Et on compte sous quelle forme? Parce que là aussi, on peut avoir des problèmes de convention. Et eux, ils ont fait le choix de compter l'énergie investie en énergie finale. Alors c'est un choix qui se défend notamment pour une raison qui est que ça permet une meilleure comparaison et une meilleure stabilité des taux de retour énergétique. Je vais prendre un exemple simple, et ça aussi c'est assez peu discuté, et c'est un truc que j'ai fini par dégager de la vidéo, je crois. Je vais prendre un exemple simple. Imaginez que pour faire un panneau photovoltaïque qui va livrer, allez, 10 kWh, c'est un exemple qui a aucun sens. Pour livrer 10 kWh, vous avez eu besoin de 1 kWh d'électricité. Et ça serait l'énergie finale. Donc ça vous donnerait un taux de retour énergétique de 10. Si vous faites comme ça en comptant l'énergie finale. Maintenant, imaginons que cette électricité, en fait, elle a été produite par une centrale au charbon. Et donc, il a fallu avoir 3 kWh de charbon pour avoir ce kilowattheure d'électricité, pour avoir ce panneau qui fournit 10. Et dans ce cas-là, on divise 10 par 3 si on prenait l'énergie primaire. Et on aurait un taux de retour énergétique de 3,33. Et pourquoi ça c'est problématique? C'est problématique parce que si ce charbon, petit à petit, on le remplace par des panneaux photovoltaïques, le panneau photovoltaïque, ce qu'on compte en énergie primaire, c'est ce qui sort en électricité. Et donc avec 1 kWh venant de panneaux photovoltaïques, je vais remplacer 3 kWh qui vient du charbon, parce que ces 3 kWh faisaient qu'un kWh d'électricité. Et donc au fur et à mesure que j'ai des panneaux de photovoltaïques dans mon économie, le taux de retour énergétique des panneaux photovoltaïques s'améliore. Et ça, c'est un artefact ou un effet assez bizarre. Donc il y a différentes manières de s'en sortir. On peut diviser par le rendement moyen du système de production électrique, ou on peut compter en énergie finale. Et ça permet de séparer cet effet-là, qui est, vu que les fossiles sont nuls, au fur et à mesure qu'on en sort, tous les taux de retour énergétique s'améliorent. C'est pas un truc que vous entendrez souvent, ça. Et donc ça permet de séparer cet effet-là d'autres effets qui améliorent le taux de retour énergétique. Par exemple, jusque-là, le taux de retour énergétique des panneaux photovoltaïques n'a fait que s'améliorer parce que c'est de plus en plus efficace. Et notamment, on les fait avec des cellules de silicium de plus en plus fines, et c'est un gros investissement énergétique qui se fait au niveau-là, hein. C'est même pas au niveau de la mine, c'est vraiment au niveau du raffinage du silicium. Alors, faut que je baisse le gain. Je sature. Je peux baisser le gain. Pardon. Désolé. Et est-ce que ça sature encore là? C'est parce que je m'énerve près de mon micro, je crois. Je vais me calmer un peu, je vais baisser le gain ici. J'ai dû le mettre à fond dans Windows. Désolé. Et merci pour ceux qui m'écoutent, du coup. Donc ils expliquent un peu la méthodo et tout ça. Est-ce qu'on va là-dessus? Non. Et puis il y a les supplémentaires immatériels, il y a la méthode, etc. On va plutôt regarder les figures, je pense que c'est toujours le plus simple à comprendre. Donc là vous voyez, ils ont fait c'est qu'ils regardent un IROI, ils regardent un taux de retour énergétique qui est vrai au niveau global. En fait, ils utilisent des tableaux d'input-output pour regarder quelque chose au niveau économique global. Et donc, vous voyez qu'ils ont un mix moyen qui est celui de la consommation des ressources fossiles, où on voit l'évaluation au niveau final, ce qui est déjà rarement ce qu'on fait. Hein. Quand vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça pour ceux qui ont vu la vidéo, mais ça, c'était intéressant aussi. Et moi, j'avais été assez surpris par ça. Par rapport à la manière dont on m'a enseigné le taux de retour énergétique. Mais déjà, cette figure-là moi, m'avait pas mal surpris. Et en fait, moi, j'avais l'habitude qu'on me donne ce taux de retour énergétique-là, qui est le taux de retour énergétique primaire. Et là, on regarde pour du pétrole en Californie. Donc là, c'est le pétrole brut en sortie de puits par rapport à ce qu'il a fallu investir pour sortir ce pétrole du puits. Mais en fait, ça change pas grand-chose au coût pour l'utilisateur final, tout ça, parce que la majorité de l'investissement énergétique se fait pas à cet endroit-là, il se fait au niveau du raffinage. Et c'est pour ça que ça n'a pas changé drastiquement le monde quand le pétrole conventionnel est passé de 80% en sortie de puits à ce niveau-là aujourd'hui. Et en fait, pendant longtemps, on a réfléchi au taux de retour énergétique et à ses implications en se mettant au niveau de un niveau de la chaîne énergétique qui nous apprend pas grand-chose en fait. Et donc déjà, quand on passe au taux de retour énergétique final, ça fait une grosse différence et on voit que certes, il y a une décroissance, mais elle n'est pas aussi vive. Et puis, l'idée de ce papier, c'est d'aller encore au-delà et d'aller jusqu'au taux de retour énergétique utile. Je ne répondrai pas aux provocations. Et donc là, vous voyez le mix moyen. Ensuite, vous avez le charbon, le gaz. J'aime bien y mettre fossile gaz en plus. Vous savez, on appelle ça gaz naturel parce qu'il est naturellement gazeux en sortie de puits et tout, mais ça laisse croire que c'est un truc cool, alors que faudrait dire gaz ou gaz fossile, quoi, pour limiter l'impact positif du mot naturel dans la perception d'énormément de personnes. Et donc, je trouve ça plutôt cool qu'ils aient mis fossile gaz. Je sais pas si ça se fait plus en anglais qu'en français. Et vous voyez que l'écart est encore plus grand, notamment sur les produits pétroliers. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi l'écart est plus grand sur les produits pétroliers que sur le gaz ou le charbon? Ouais, Neo Durden, c'est une bonne remarque. Plus le mix est décarboné et moins la fabrication des panneaux photovoltaïques émet de carbone. Et ça, on a des études qui montrent ça en plus, qui font des calculs d'analyse de vie à une échéance donnée en fonction des scénarios. SPADW, non, c'est pas le raffinage parce que là on regarde la différence entre l'énergie finale et l'énergie utile. Et bonsoir Florent Yonick. Fulson 2, bah il y a un minimum. Ah, aujourd'hui en pratique il y a un minimum. Après, pourquoi il y en aurait un terme? Ça c'est une bonne question. Quelle utilisation des ressources fossiles est absolument impensable comme remplacement? Peut-être des utilisations matérielles, mais d'un point de vue énergétique, je ne ferai pas de pari à long terme là-dessus. Alors on peut discuter de ce qui est aujourd'hui difficile à remplacer. Ouais, Navislai, tu as la bonne intuition. Alors Fulson 2, ouais, on va pas trop partir dans cette discussion. Effectivement, on pourrait discuter des plastiques. Alors les plastiques, on peut essayer d'en faire à partir de biomasse, hein. La biomasse contient les mêmes éléments chimiques que le pétrole, mais ça peut être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher, on ne sait pas si on a les gisements, etc. Et effectivement, dans les matériaux, on peut avoir des discussions intéressantes. Par contre, sur les utilisations énergétiques, ce qui est plutôt ce qui m'intéresse, et souvent c'est ce qui pèse lourd, hein, dans les émissions, là je suis... Je pense que c'est difficile d'avoir un argumentaire solide qui te montre que c'est remplaçable, surtout à terme, quoi. Eddard 21, il y a des bonnes formations qui existent sur les ACV, je sais pas trop, désolé. Omelette au fromage, comment ils peuvent savoir où sont produits les panneaux PV à l'échelle d'un pays? Alors là, on ne regarde pas le PV pour l'instant. Goupil 1, est-ce vraiment le cas, sachant que la plupart des panneaux sont produits en Chine, qui veulent mettre une grosse pression sur les prix et donc utilisent du charbon pas cher pour la production de panneaux? Bah la Chine, son intensité carbone de l'électricité, elle se réduit, hein, comme ailleurs dans le monde. Je pense qu'on peut le voir assez rapidement. Intensité carbone electricity. Et en plus, ils sont quand même sur la bonne voie. Est-ce que je l'aurais facilement? Pff, non, je l'aurais pas facilement. Faudrait regarder l'intensité carbone en Chine. Bon, sur Our Only Data, il y aurait. À mon avis, il y est. Mais ça ferait une grosse digression. Attendez, je vais me reconcentrer sur le papier. Est-ce que la moyenne est représentative de l'énergie utilisée pour en déduire l'impact carbone des panneaux? Bah pourquoi ça ne le serait pas? Comment tu voudrais faire autrement qu'en utilisant la moyenne? Surtout pour allouer de l'électricité, par exemple, c'est pas évident, hein. Ouais, en fait, là, on regarde vraiment la conversion entre l'énergie finale et l'énergie utile. Donc, il faut penser à ce qui se passe une fois que vous avez acheté ce produit-là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans le charbon, on va l'utiliser notamment dans l'industrie pour chauffer ou pour réduire, etc. Et le gaz aussi, on l'utilise beaucoup pour chauffer, hein. Par exemple, je sais pas, le verre, c'est fait avec du gaz, hein. Et du coup, ben, si vous l'utilisez pour chauffer, en fait, votre énergie finale, c'est l'énergie utile et vous n'avez pas une conversion qui est. Et dans ce cas-là, la conversion est de 100%. Alors, on n'utilise pas que pour chauffer, hein. Par exemple, on peut faire l'électricité et c'est pour ça qu'il y a cet écart-là. Par contre, le pétrole, c'est vraiment l'énergie reine pour les déplacements et donc on les met que dans des moteurs thermiques et des moteurs thermiques qui sont souvent pas très efficaces, hein. On peut penser aux voitures, aux camions. Et du coup, c'est pour ça que l'écart est encore beaucoup plus grand ici. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre les différentes ressources et en fait on va le retrouver aussi dans le panel B où on regarde en fonction du secteur dans lequel c'est utilisé et vous voyez que quand on regarde pour du chauffage basse température, température moyenne et haute température, on continue d'avoir un taux de retour énergétique qui est assez important parce que là on a des conversions bah, qui sont plutôt bonnes, hein. Parce que vous n'avez pas besoin de. Vous prenez pas le second principe dans la tronche quand vous essayez pas de convertir de la chaleur en travail. Second principe de la thermo. Pour ceux qui n'ont pas toutes ces connaissances et références, vous les aurez après la prochaine vidéo qui finira par arriver un jour. Et après, quand on va voir sur du travail mécanique ou sur de la propulsion, là vous avez des taux de retour énergétique qui sont beaucoup moins bons parce que vous avez ces pertes entre l'énergie finale et l'énergie utile. Bien joué pour ceux qui avaient vu le coup venir. Alors, il y a ça, c'est une figure qui montre juste l'utilisation d'énergie finale entre des utilisations directes sur les sites et des utilisations indirectes entre les industries, hors site, etc. Je ne sais pas si ça mérite plus de commentaires. Et là, vous avez les taux de retour énergétique final. Alors ça, c'est le final pour le mix de fossiles moyens, les produits charbon, les produits gaz, oil and gas, on va laisser de côté, et puis le produit vraiment pétrolier. Et ensuite, vous avez ce qu'on a vu sur les différents secteurs. Et là, les points, c'est des taux de retour énergétique qui sont reportés dans la littérature pour le photovoltaïque et pour l'éolien. Donc ce qu'on voit déjà, c'est que au niveau de l'énergie utile, ces renouvelables-là s'en sortent déjà mieux hein, que les ressources fossiles ont un meilleur taux de retour énergétique au niveau de l'énergie utile, et c'est notamment parce qu'on les utilise dans des convertisseurs qui sont beaucoup plus efficaces que des machines thermiques. Par contre, ça ne va pas être le cas quand vous voulez produire de la chaleur, parce que là, ils font une hypothèse qui est qu'on n'utilise pas de pompe à chaleur. On utilise des moyens qui sont résistifs. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est mentionné dans l'article. Ils mettent que ça affecte les résultats et ils ont même un supplementary. J'ai vu ça. Je vais retrouver. Ouais. Et si on fait la même figure, mais en considérant qu'on utilise des pompes à chaleur pour de la chaleur, bah, on se retrouve à nouveau avec un avantage du photovoltaïque et de l'éolien. Alors, si on mettait le nucléaire là-dessus, le nucléaire serait encore plus haut. C'est juste que des moyens de produire de l'électricité avec un bon taux de retour énergétique sont avantagés par rapport à des moyens fossiles, parce que les moyens fossiles sont utilisés dans des machines thermiques qui sont pas incroyables. Après, ils ont fait un autre truc, on va passer un peu plus rapidement là-dessus, ils ont fait un autre truc qui est de regarder le taux de retour énergétique. Alors attendez, ça c'est un peu compliqué. Donc, il regarde, je pense, l'IROI moyen du système énergétique au niveau utile. Et là, c'est l'IROI le plus bas pour du photovoltaïque. Et on voit que bah, le photovoltaïque est déjà mieux que ce qui se passe dans la plupart des économies du monde, enfin, la plupart des systèmes énergétiques du monde, quoi. Là, ça revient à peu près au même. Alors là, en fait, bon, pour éviter la critique habituelle de oui, mais c'est des moyens intermittents, ils ont intégré ça avec différents scénarios de transition énergétique en prenant en compte dans ces scénarios de transition énergétique le fait que quand on a beaucoup de renouvelables, dans les moments de surproduction, on va perdre une partie de la production, on va écréter, on appelle ça, et en anglais c'est curtailment. Et on a besoin de moyens de stockage aussi, hein, qui représentent, vous voyez, suivant les scénarios de 10 à 30%. C'est un scénario très bizarre, ça. 30% de stockage et quasiment pas d'écrêtage. C'est un scénario très très bizarre. On va dire 10 à 15%. Les Anglais et les Américains, ils mettent pas mal de stockage. Et même en faisant ça, vous voyez que ça diminue, hein, le taux de retour énergétique, quand on rajoute, le stockage. Et vous voyez que si on regarde un système, je sais pas. Lui, il a beaucoup de stockage et beaucoup d'écrêtage, ben, il se retrouve avec des IROI qui sont plus bas. Hein. Et même dans ces cas-là, on s'en sort mieux, surtout sur certains usages et notamment sur le transport, quoi. Alors, avant de voir les limites un peu, j'aurais pu commencer par l'abstract parce que c'est assez intéressant. Donc, eux, ils disent les implications de réfléchir en termes d'énergie nette, donc en termes d'énergie qui reste disponible une fois qu'on a retiré l'énergie qui a été utilisée pour produire l'énergie, a été analysée jusqu'ici au niveau de l'énergie finale. Ici, il montre que porter l'analyse jusqu'à l'énergie utile est important. Et ils le font pour les ressources fossiles au niveau de l'énergie utile sur la période 1971-2020. Au niveau global et au niveau national, en désagrégeant les taux de retour énergétique par utilisation finale. Et ils trouvent que au stage utile, le taux de retour énergétique des fossiles sont plus bas que ceux. Ah non, sont plus bas qu'au stade final, pardon, à cause de ces conversions inefficaces. Donc jusque-là, c'est à peu près ce que j'ai raconté. Et après, ils estiment que les taux de retour énergétique pour ce qui produit l'électricité, et ils font que photovoltaïque et éolien, il me semble. Ils estiment que c'est 4,6, donc c'est au-dessus des 3,5 ici. Et du coup, le taux de retour énergétique de ces renouvelables, basé sur les éléments publiés, ils trouvent que c'est plus haut que ceux des fossiles, même en considérant l'intermittence et les moyens à mettre en place, en face. Et donc ces résultats suggèrent que la transition énergétique peut avoir lieu sans déclin de l'énergie nette utile, et que ça va à l'encontre de certains discours qu'on entend qui nous disent que si on remplace les ressources fossiles, on aura une perte importante d'énergie. Donc voilà, c'est quand même le gros message du papier, c'est quand même Nature Energy. Alors je sais, hein, que chez nous, on a des personnes sur des forums qui arrivent à penser mieux ces questions que tout le monde, mais c'est de la littérature scientifique revue par les pairs. Et c'est intéressant qu'on ait eu des choses qui vont jusqu'à l'énergie utile, parce que ça manquait jusqu'ici. Et je pense sincèrement, et ça je l'ai dit plusieurs fois dans ma vidéo, que c'est impensable et inutile de réfléchir à la transition énergétique sans prendre en compte le fait qu'on remplace des machines inefficaces. C'est vraiment une grosse erreur. Et c'est bizarre que cette erreur n'ait pas été relevée avant et qu'on ait fait ces erreurs pendant des années sans avoir beaucoup de commentaires là-dessus. Alors attendez, je vais essayer de reprendre un peu les différentes questions. Parce que j'en ai raté un paquet. Yann Ducept a une remarque sur les AMR, mais je ne connais pas bien. Agaz SDLT dit: j'ai un pote qui connaît un mec dont la cousine est mariée à un coiffeur dont le client a dit que la prochaine vidéo est prévue pour ce week-end. J'ai pas parlé de ça avec mon coiffeur et elle n'est pas prévue pour ce week-end. Mais elle est en montage. C'est déjà un progrès. C'est déjà un progrès. Après, je pense que vu la gueule de la vidéo, il y a genre 2 jours rien que pour lister les sources, mais elle est en montage. Donc on fait aussi vite que possible. Comme ça, on n'a rien à se reprocher. Mais aussi vite que possible, ça peut être long. Ça monte haut le COP avec la pompe à chaleur. Ok. Adrien D, dans le solaire pour la chaleur, il y a le panneau solaire thermique. Non, ils ont juste considéré photovoltaïque ici. Ah, Néo Durden. merci. Oh, merde. Il nous a trouvé l'évolution de l'intensité carbone en Chine. Bon, on devine que ça diminue. Et c'est des données de... Si on avait le temps, on pourrait les chercher parce que c'est sur Amber. Et j'ai l'habitude d'Amber. En tout cas, merci, Neo Durden. Donc, ça se réduit et c'est une bonne nouvelle. Après, on aimerait tous que ça aille plus vite. Hein. Et après, est-ce que Jean-Covici est sur le stream? Je ne sais pas. Est-ce qu'il verra ce papier? Je ne sais pas. Il faudrait faire un petit truc sur LinkedIn, mais... J'ai eu un échange rapide avec lui où il m'a dit que j'avais des affirmations non sourcées et des incohérences dans ma vidéo. Et quand je lui ai demandé, quand je lui ai dit que ça m'intéressait parce que je l'avais fait avec des chercheurs et tout, je lui ai demandé lesquels, il est passé sous un tunnel et j'ai plus eu de réponse. Mais je sais pas comment on peut continuer de se convaincre que ça n'a aucun sens et que ce que tu crois est meilleur. Pourquoi? Parce que les justifications, on les attend, quoi. Perso, j'ai pas trop confiance en les COP des pompes à chaleur RO. Généralement, c'est un A7W35, R à 7 degrés et O à 35 degrés, ce qui implique des planchers chauffants et un air extérieur frais, mais pas froid. Généralement, quand on en a besoin en hiver, c'est pas top. Les seules pompes à chaleur valables semblent être celles qui sont OO. Du coup, il y a PAC et PAC. Bah, j'attendrai de faire une vidéo sur les PAC. Moi, je pense que je vais passer à une pompe à chaleur et je pense que j'aurai pas le temps de faire une vidéo avant, mais j'en ferai une un jour parce que je pense que c'est quand même une des grosses technos de la transition pour les pays, notamment tempérés. Hein, ça va jouer sur un gros bout. Hein. Et alors, il y a quand même tout n'est pas incroyable et il mentionne à plusieurs reprises. Il peut y avoir des problèmes et il y a des limites aussi avec l'approche. En plus, le taux de retour énergétique. Alors, me faites pas trop dire ce que j'ai pas dit. Là, on a des résultats voilà, qui montrent que cette approche du taux de retour énergétique, telle qu'elle a été utilisée par beaucoup de gens, elle paraît de plus en plus difficile à défendre. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que le taux de retour énergétique, c'est quand même un outil qui présente ses limites. Quoi. Je ne ferai pas de pari fort en me basant juste sur un taux de retour énergétique. Je ne pense pas qu'on puisse parier sur la fin du monde avec. Je ne suis pas sûr qu'un taux de retour énergétique correct ça permette de parier que la transition se fera sans à-coup non plus. Je pense que au mieux c'est un outil parmi d'autres. Donc là il y a cette question des pompes à chaleur et il y a aussi une question qui revient plusieurs fois qui est la question de l'investissement énergétique requis notamment pour déployer l'infrastructure. Et ça, c'est un sujet sur lequel Louis Delannoy a pas mal travaillé, sur le taux de retour énergétique et cette question de l'investissement, parce que y a une des grosses différences quand même entre les ressources fossiles et des technologies comme photovoltaïque et éolien et dans une certaine mesure le nucléaire, peut-être une moindre mesure, c'est que pour les ressources fossiles, en fait, l'investissement énergétique dans l'infrastructure est plutôt faible, surtout par rapport aux investissements énergétiques que vous allez avoir à l'extraction, au raffinage, au transport, etc. Parce que ouais, c'est dense, etc., les ressources fossiles, mais on en transporte quand même des milliards de tonnes, et ça demande un certain nombre de transformations, ce qui fait que la plupart des investissements énergétiques vont être au fur et à mesure de l'utilisation. Par contre, pour du photovoltaïque, de l'éolien et dans une moindre mesure du nucléaire, photovoltaïque, éolien, hydroélectricité et dans une moindre mesure nucléaire, l'investissement énergétique, il est quasiment entièrement avant que ça commence à produire. Et ça veut dire que quand vous essayez, hop, d'un claquement de doigts, de passer d'une structure fossile à une structure renouvelable et nucléaire, vous avez un investissement upfront vraiment à faire avant que ça commence à produire qui peut être énorme. Et donc, vous pouvez avoir des problèmes dynamiques qui peut être une réduction du taux de retour énergétique ou de l'énergie disponible au moment de cette transition. Et donc, cette analyse ne remet pas en question ce potentiel problème. On le voyait un peu sur ce type de courbe dans la vidéo. Alors là, c'est un autre papier dans Nature, et quand on regardait les taux de retour énergétique, vous voyez que dans certains scénarios, il y a une baisse ici du taux de retour énergétique, et ça, c'est pour des questions de d'investissement énergétique dans le système énergétique qui demande plus d'investissement énergétique que pour déployer une infrastructure fossile. Et cette réflexion, on pourrait l'avoir aussi en termes économiques. Pour construire une centrale nucléaire ou des moyens renouvelables, l'investissement, il est au début et il peut être assez important. Je ne sais pas si c'est clair, cette petite subtilité, mais c'est important. Donc là, ils disent, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est juste... Et après, il y a des questions aussi de... le taux d'auto-énergétique global, il pourrait être réduit parce que on utilise les meilleurs emplacements en premier. Et ça, c'est, je pense, c'est plus valable pour l'éolien que pour le photovoltaïque, mais c'est clairement valable pour l'éolien. Mais il faut aussi voir que il y a des facteurs d'amélioration technologique. On n'est pas encore, on n'a pas encore atteint une maturité complète. Et pour l'instant, c'est plutôt ces facteurs-là qui l'emportent. Donc voilà, je ne sais pas si on s'attarde sur la conclusion. Donc moi je, alors ça c'est vraiment le moi c'est le point qui me reste le plus hein, de ma vidéo sur le taux de retour énergétique. À part les limites avec la métrique, quand t'as vu que tout le monde fait un truc différent et utilise des trucs différents avec des justifications différentes pour arriver au point qu'ils ont envie. Mais ça, c'est vraiment l'application la plus importante, ils disent, pour moi. Ils disent, voilà, si on a des modèles énergie économique qui essayent de calculer cette énergie nette disponible, mais s'arrêtent à l'énergie finale, en fait, ils vont être pessimistes parce qu'ils ratent ce gain d'efficacité qui va faire un bout de la transition quand même. Ça, c'est un premier point. Et puis le fait que, à minima, aujourd'hui, on ne peut pas utiliser le taux de retour énergétique pour rejeter un système fossile, quoi. Un système renouvelable. Alors, si on le panache avec du nucléaire, hein, personnellement, je pense que c'est encore mieux, mais cet argument qui est souvent utilisé pour rejeter les renouvelables, il est de plus en plus dur à entendre, à supposer qu'il ait été entendable un jour. Combien de vidéos allant sortir de la prochaine SNBC? Bah, pas trop des miennes, je pense quand même. Avec aussi que ces investissements structurels peuvent être supportés par la puissance publique, là où le raffinage et le reste sont intégrés à l'économie fossile, je me trompe. Est-ce que c'est des structures différentes d'investissement? Bah, c'est sûr qu'il y a eu un support public jusqu'ici. Pour le nucléaire, c'est souvent le cas. Pour les renouvelables, c'est le cas jusqu'ici. Mais il y a aussi de plus en plus d'investissements privés dans les renouvelables. Ouais, je ne saurais pas trop répondre à bien à ça. Je suis désolé. Ici, pareil. Ah, mais merci, Neo Jordan. Donc là, on peut regarder la Chine. En espérant qu'elle le fasse mieux. Hein. Et moi, ce qui m'intéresse... Alors oui, le gros problème, hein, c'est que ça augmente. C'est que ça augmente en absolu et que le charbon continue d'augmenter. On espère qu'on aura le pic bientôt. C'est dommage hein, qu'ils aient eu chaud l'an dernier, parce que... Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc voilà, il y a déjà une réduction. Aujourd'hui, si on prend en compte l'électricité moyenne, un panneau photovoltaïque en Chine émet moins qu'il y a 20 ans. Enfin... le même panneau qu'il y a 20 ans, parce que en fait ce qui a beaucoup réduit sur cette période là c'est aussi l'amélioration techno et notamment la réduction des cellules. Après voilà, ça a diminué de, je sais pas ce qu'on pourrait dire, seulement un quart quoi. Et surtout il y a la question du volume. Bon, on va discuter un peu de déploiement des renouvelables après, je pense. Mais merci Neo Durnan. Alors Navisla dit, apparemment ce sont des croyances infondées, on peut avoir un bon COP en hiver et une installation adaptée au système de chauffage pour avoir un très bon COP. horoscope réel, évidemment. Par exemple, au Royaume-Uni, ils ont fait un plan de déploiement de Pâques et les résultats sont plutôt bons. Il y a des mauvais copes, mais très marginaux. Voir aussi le fact-check de Carbon Brief. Bah, merci pour ces éléments, Navisly. Moi, je vous dirais parce qu'il y a des chances que j'ai une pompe à chaleur RR. Et surtout, il faudra que je fasse une vidéo. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi t'as pas fait la vidéo avant? Bah, parce que je mets des années à faire des vidéos et fallait que je fasse des travaux. Ouais, non, mais c'est vrai ce que tu dis, Fabchess. Là, on regarde des pays qui augmentent encore. Hein, si on regarde des pays développés, ce qu'on observe souvent, c'est une réduction de l'intensité. Et est-ce que je peux avoir tout? Bah, j'avais tout à l'heure. Choose fuel. Je sais pas ce que j'ai fait, je l'ai cassé. Je suis pas doué, je crois. Et si on regarde l'intensité, bon, elle reste stable, donc parce qu'elle est déjà assez basse. Mais si on allait regarder l'UE ou l'Allemagne, l'Allemagne a quand même pas mal réduit. Si on regarde ils sont plutôt bons, ces Anglais. Si on regarde Europe, ça réduit. Et si on regardait. Attends, j'arrive plus à voir. Bon, je suis nul, je crois. C'est pas ça que je veux. Clean. 50% d'augmentation en propre. Share. Le propre est passé de 45% à 60% en Europe. Ça avance lentement, mais ça va dans le bon sens. Jérémy Virin, je crois que l'IEA et Amber prévoient une baisse de la production de charbon en Chine et dans le monde. 300 TWh, moins 300 TWh si ma mémoire est bonne, sur 10 000 TWh de production mondiale de charbon. Ouais, bah, il faudrait que je fasse ma deuxième partie sur le charbon pour pouvoir vous parler de ça bien comme il faut. Est-ce qu'il y a des questions sur ce papier? Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Voilà. C'est un chercheur qui m'a aidé un peu à faire la vidéo. Un des chercheurs qui m'a aidé à faire la vidéo. Et il est assez cool. Emmanuel Ahamandia. Donc merci à lui pour la vidéo. Et bravo pour un papier dans Nature Energy. Hein. Moi, j'ai jamais fait ça. En même temps, je n'ai pas fait un doctorat sur l'énergie. Mais quand même, je n'aurais pas fait ça, je pense. pas de questions. Taux d'auto énergétique, je pense que c'est une vidéo qui est utile. Il y a des personnes qui n'apprécient pas certaines parties. Il y aura toujours des discussions. Mais à minima, comprendre ces questions de convention. À minima, comprendre que le taux de retour énergétique, il y a pas mal de problèmes avec la métrique et ce qu'on peut lui faire dire. Et puis, à minima aussi, comprendre ce truc de, il y a des rendements des machines qu'on remplace qui est à prendre en compte quand on réfléchit la transition et l'évolution du système énergétique, quoi. Et puis, à minima aussi, se rappeler que aujourd'hui, hein, si on croit les scénarios techniques faits par des experts techniques, bah les besoins de stockage, etc., sont pas aussi faramineux que qu'on voudrait nous le faire croire. On verra, hein, au fur et à mesure qu'on se rapproche, on verra quelles difficultés on a, mais l'argument perpétuel de l'intermittence du stockage et tout, aujourd'hui on a des données qui permettent de quantifier ça correctement et on voit que c'est pas des volumes qui rendent ça impossible. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis de côté? Ça, on peut fermer. Ça, on peut fermer. Ça, on verra après. Hop. Alors, il y a un autre truc que je voulais montrer. C'est la question du taux de déploiement des renouvelables en ce moment. Donc là, on est sur le blog de Anarichi. Ça va relancer des discussions sur le Discord. N'hésitez pas à venir sur le Discord discuter avec nous. tant qu'il n'est pas communautaire, vous devez utiliser ce lien que j'y mets à jour, donc normalement il fonctionne, si vous voulez rejoindre nos petites discussions. Et on est une petite centaine, petite forme ce soir. Quand il n'y a pas Loïc, je suis déserté. Donc là, c'est un article sur la vitesse de déploiement du solaire et de l'éolien, et en comparant en particulier avec le déploiement du nucléaire dans les années 70 et 80. C'est une discussion qui a été lancée par une personne qui lui a envoyé cette figure que j'ai vue régulièrement moi, et ça vient d'un papier de Hansen notamment, qui est un climatologue assez connu. Et en fait, il montre les taux de déploiement solaire et éolien ici par rapport au nucléaire, et c'est évidemment un argument pour le nucléaire qui n'est pas si lent que ça apparemment à déployer. Et le problème, c'est que là, vous voyez que c'est un papier qui commence à dater, c'est un papier de 2016. Et non, c'est pas ma petite amie. Arrêtez. J'apprécie son travail, j'ai bien aimé son livre. Il y a des personnes plus critiques que moi. Moi, j'aurais bien aimé faire la moitié de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a fait jusqu'ici. Je suis assez admiratif quand même. C'est une jeune femme plus jeune que moi et elle a déjà fait beaucoup. Et puis moi, je sais pas. Je me bats sur Internet, voilà. Et donc, ce qu'elle explique, hein, et c'est assez évident, c'est que les données commencent à dater. Donc, c'est une figure qui pouvait être correcte à date, mais elle a voulu l'actualiser. On touchera quelques mots de ces périodes-là, parce que je pense qu'il y a quelques biais. Alors, je peux peut-être en toucher un mot maintenant. Je pense qu'il y a quelques biais dans cette représentation, et notamment, il y a un biais qui est que, en fait, il compte la période, je pense, à partir du moment où la première centrale arrive en fonctionnement. Et je sais pas si c'est correct de faire ça. Moi, je pense que ça aurait été correct de regarder par rapport au moment où on coule le premier béton. Et en fait, quand on regarde l'histoire du programme nucléaire sur Wikipédia, ils mettent... c'est une longue histoire. Hein. Ils mettent... Donc, c'est engagé en 74... Et je sais plus quand ils mettent. Nanana. Voilà, le chantier commence en 74. Et j'ai regardé pour la Suède, c'est un peu pareil. Hein, c'est... Merde, je suis là. Donc ils ont gardé, je pense, à partir du moment où le premier acteur commence en ligne. Et c'est peut-être un peu bizarre de faire ça comme ça. Ah oui, et il y a un autre truc que j'ai pas précisé, hein, et pourquoi la France s'en sort par rapport aux États-Unis et au Japon. C'est parce que ici, on regarde. Le nombre, la production additionnelle par an et par habitant. Est-ce que l'OPEX 25, ça fait un peu de cherry picking de prendre pile la bonne période? Non. Bah ouais, disons que c'est un peu pareil, je pense, pour les renouvelables, mais vu que les temps de construction sur les renouvelables sont plus faibles et que c'est plein de petits projets en parallèle, je pense que ça fait moins mal aux renouvelables. Je serais curieux de savoir si je me suis pas planté et si je comprends les choses correctement. Peut-être qu'il justifie dans le papier. J'ai pas été voir le papier d'Hansen. Et si j'ai compris le truc correctement, je serais curieux de voir ce que ça fait quand on réactualise. Parce que si on rajoute 5 ans sur la période de 10, on perd à peu près un tiers ici et c'est pas rien. Et la Suède, elle a pas construit plus de réacteurs que la France, hein, c'est juste qu'elle a beaucoup moins d'habitants. Donc en fait, ce qu'elle ajoute comme électricité par habitant, eh ben, c'est plus important. Après, je dirais même les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et tout, et en particulier la France, c'est des prouesses industrielles qui sont admirables. Hein. La manière dont ce nucléaire a été déployé rapidement avec la construction en parallèle des réacteurs et tout, aujourd'hui on a du mal à faire aussi bien. Donc c'est pas du tout pour remettre ça en question. Moi je trouve que ça a été une très bonne chose pour la France et pour l'écologie. Mais voilà, il y a peut-être un petit truc à regarder de ce côté-là, je sais pas trop ce que vous en pensez, je garde mon esprit critique allumé, même quand il s'agit de notre belle progression nucléaire dans les années 70-80, enfin surtout 80 en fait. Et ensuite elle fait un truc, c'est qu'elle va regarder sur une période d'une décennie aussi, comme là c'est une décennie. Et là, vous voyez que ça change déjà par rapport à ici, hein, parce que en fait, sur la période 2004-2014, on était quand même au balbutiement de ces technologies. Et aujourd'hui, il y a un déploiement qui est plus marqué. Mais comme on est sur des déploiements qui sont plutôt exponentiels, en fait, c'est encore mieux si on regarde le taux sur les 4 dernières années. Et là, vous voyez hein, des pays comme l'Australie, les Pays-Bas, la Suède qui déploie plein d'éoliens. C'est impressionnant ici. Le Danemark et son éolien, l'Espagne qui commence à mettre du photovoltaïque, et même les États-Unis. Hein. Les États-Unis, on a souvent cette perception de fossiles très puissants, mais je pense qu'on a parlé avec Loïc, et même le Texas, hein, qui est un endroit extrêmement républicain, il déploie à donf des renouvelables parce que c'est hyper cheap. C'est aujourd'hui le point de bascule, il est passé. C'est un point de bascule qui est économique et qui fait que il y a des endroits où ça va se déployer assez facilement. Et je pense que il va y avoir un peu, on peut le souhaiter, un tsunami de cette production électrique. Florian Nuick, le temps de construction des réacteurs n'a fait que ralentir en France, en fait, du fait d'une complexification et du manque d'export de réacteurs. Ouais, perte de savoir industriel, complexification, sûreté, je sais pas trop. Ça fait longtemps que j'ai pas creusé sur le nucléaire. C'est des sujets un peu sensibles et polémiques. Ok, nanana. Aujourd'hui, il faudrait faire une fête nationale quand l'EPR de Flamanville entrera en fonctionnement complet. On a besoin de toutes les phares. Alors surtout que Anna Ricci, elle n'est pas du tout anti-nucléaire. Il y a quelques passages sur le nucléaire qui m'ont fait rire. Je sais pas si je peux retrouver. Alors, il y a un premier point qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, et ça se voit très bien en France, hein, le nucléaire s'est ajouté à de la production électrique. Alors, en France, on a fermé du pétrole, mais ce que je veux dire, c'est que on a fermé nucléaire du pétrole, mais ça, on a fait plus que fermer du pétrole. C'était vraiment dans une phase où il y avait une augmentation rapide de la production d'électricité. On le voit bien, on est passé de 250 TWh dans les années 80 au double dans les années 2000. Donc en 20 ans, on a doublé la production d'électricité avant d'atteindre un plateau. Et elle le mentionne, je crois, dans l'article, mais normalement, si on a plus d'électrification pour dégager les ressources fossiles dans la mobilité, la production de chaleur et l'industrie, on va avoir à nouveau une augmentation de la production d'électricité avec une baisse de l'énergie finale, parce qu'on va remplacer des moyens inefficaces d'utiliser l'énergie, type voiture, type centrale fossile, type travail mécanique avec des fossiles, etc. Mais il y a de très grandes chances, on le voit dans quasiment tous les scénarios, qu'on ait besoin de plus d'électricité. Et donc, voilà, le déploiement nucléaire s'est fait en comprimant un peu les fossiles, mais même pas tant que ça, en fait. Hein. Ouais, si, quand même. C'est pas négligeable, mais il restait des fossiles, et surtout, c'est ce qui a permis d'augmenter la production d'électricité sans brûler trop de fossiles. Alors que maintenant, on est dans une situation, notamment dans les pays riches, où la production d'électricité, pour l'instant, est relativement stable, et donc ce déploiement des renouvelables, ça se fait au détriment des fossiles, et on vient de le voir hein, sur Amber, là c'est la part d'énergie propre dans l'électricité européenne, et on voit que cette part augmente. Hein. Faut arrêter de croire qu'en France ou en Europe, c'est vrai cette croyance que les énergies ne peuvent que s'additionner, et je ne sais pas quoi. Ça c'est des personnes qui regardent que des courbes mondiales, et qui du coup ratent des dynamiques qui paraissent quand même importantes à comprendre pour comprendre la transition. Et elle le dit, hein, cette période de stagnation, bah, si on a plus de voitures électriques, de pompes à chaleur, etc., ça peut, bah, y a des chances que la production électrique remonte. Elle serait contente d'avoir une nouvelle révolution nucléaire parce qu'on a besoin d'énergie bas carbone, et je suis d'accord avec elle. Et il y a un endroit. Ah oui, voilà. Et la classique, hein, j'aurais pu mettre la même. Hein. Aujourd'hui, les sources d'électricité bas carbone ont été utilisées pour replacer des sources existantes, charbon, notamment dans les pays développés. Ah oui, dans les pays développés. Charbon, gaz pour décarboner, et nucléaire pour des raisons qui ne font toujours pas de sens pour elle, et qui ne font pas plus de sens pour moi. Et là, on peut passer une petite pensée à l'Allemagne, qui a fait des gros efforts de déploiement des renouvelables. On peut les saluer pour ça, hein. C'est eux qui ont permis de réduire un peu les coûts au niveau mondial. On peut quand même les critiquer sur le fait que remplacer le nucléaire n'était peut-être pas la priorité d'un point de vue économique, politique, écologique. C'est quand même dur à défendre. Et donc là, ce qu'elle a regardé, c'est en moyennant sur une décennie au niveau mondial. Donc c'est l'augmentation Je comprends comme ça. Attendez, je vais relire. Ouais, au niveau mondial. Ouais. Alors, attendez, je vais essayer de rattraper un peu. Waouh. C'est un fameux « je ne suis pas anti-nucléaire, mais » Bah, je crois pas. Je pense qu'elle est sincèrement pas anti-nucléaire. Et moi, je pense pas être anti-nucléaire non plus. Est-ce que le déploiement de l'éolien solaire ne risque pas d'être cantonné au nord, notamment à cause de l'échange écologique inégal dont on profite et qui nous rend encore plus avantageux ces techs-là? Epic, je pense pas, parce qu'aujourd'hui, le photovoltaïque, ça peut devenir l'énergie la moins chère pour des pays du Sud. Et en plus, il y a un autre avantage de ces énergies-là, c'est que elles peuvent être diffusées assez rapidement, elles peuvent fonctionner de manière un peu disparate. Des problèmes dans des pays en voie de développement, ça peut être le fonctionnement du réseau électrique. Et il y a des pays qui seraient incapables d'absorber la puissance d'un réacteur, d'un réacteur nucléaire, un EPR par exemple, à un endroit donné pour des raisons d'infrastructure. Et si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de réseau électrique stable et que vous avez besoin d'électricité, ben vous mettez un panneau et vous avez l'électricité quand il y a du soleil, et c'est déjà mieux que pas en avoir du tout. Et ça peut déjà fonctionner assez rapidement. Et vous pouvez au moins charger votre téléphone et accéder à un certain nombre de services, ben, des premiers services que vous pouvez avoir avec de l'électricité. Non, 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 je pense que le photovoltaïque se déploiera aussi dans des pays en voie de développement. Et plus facilement peut-être que des technologies centralisées et qui demandent un savoir-faire technique plus important. Je ne suis pas un spécialiste de ça, donc je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit un gros problème. Et après, est-ce qu'il peut y avoir de la prédation? Alors, si la question c'est plutôt ça, est-ce qu'il peut y avoir de la prédation? Aujourd'hui, je pense que la Chine a d'énormes capacités de production et qu'ils n'en touchent pas encore les bords. Hein. Donc, je sais pas si. À mon avis, il y a plus de prédation sur les fossiles. Hein. Il y a la guerre en Russie, les Européens veulent leur petit gaz pour chauffer les fesses en hiver, ils l'achètent très cher sur les marchés et c'est les pauvres qui n'ont plus à manger. Hein. Enfin, plus les moyens de se chauffer à manger. Donc, je pense que la prédation, elle est encore plus forte sur les ressources fossiles. Là, ouais, combien de personnes dans les pays en voie de développement ne peuvent pas mettre de l'essence dans leur ambulance parce qu'on en met dans nos SUV? Ça c'est une vraie question. Parce que ces marchés-là, c'est des marchés globalisés comptants. J'ai pris un exemple un peu caricatural peut-être, mais vous avez l'idée. Et donc là, l'idée c'est, elle regarde au niveau mondial. Au moment de la grande vague du nucléaire des années 70-80, par rapport à ce qui s'est passé dans soit la dernière décennie, soit les 5 dernières années, et vous voyez que dans ce cas-là, le taux de déploiement du renouvelable au niveau mondial, par habitant, on a dépassé les maximums du nucléaire. Et il y a une autre représentation ici où on voit l'augmentation de la production d'électricité par habitant au niveau mondial du nucléaire. Vous voyez qu'il y a des fluctuations assez importantes et vous voyez, hein, malheureusement cette décroissance avec la fermeture d'un certain nombre de réacteurs et puis l'augmentation aujourd'hui assez forte de l'éolien et du solaire. Et elle dit même que aujourd'hui on a des croissances, notamment sur le photovoltaïque, hein, qui a une croissance plus impressionnante que sur l'éolien. On a des croissances assez importantes. On n'a pas trop de raisons de croire pour l'instant que ça va ralentir. Et donc, elle prédit, sans prendre trop de risques, je pense, que le photovoltaïque va battre les records du nucléaire dans les prochaines années, qui est un peu au-dessus de 40 kWh, là, dans les années 84-85. Belles additions. Donc voilà un petit article sympa, je trouve. Quelqu'un connaît la part de la production d'électricité qui serait captée par le minage, raffinage et transformation des ressources servant à déployer ces 10 moyens de production? En gros, combien de pourcentage du panneau solaire sert à sa propre production si elle devait n'être façonnée que par un autre panneau solaire ou d'une éolienne? Bah, c'est un peu le concept du taux de retour énergétique avec les problèmes dont on a parlé de convention, mais c'est vraiment l'idée de base du concept. Et du coup, pour les moyens de production, pour les moyens de production, j'avais ça dans la vidéo. Donc les évaluations aujourd'hui pour l'éolien sont autour de 20 et pour le photovoltaïque sont autour de 10. Après, il y a toute la question de est-ce qu'on arrive à électrifier toute la chaîne? Et aujourd'hui, si on devait électrifier toute la chaîne, on aurait probablement des taux de retour énergétique inférieurs à ça. Parce qu'il peut y avoir des applications où aujourd'hui les voies d'électricité ne sont pas matures, donc ne sont pas très efficaces. Je ne sais pas, faire de la réduction de silice avec de l'électricité, je ne sais pas si on sait faire ça bien, quoi. Mais aujourd'hui, on est dans ces ordres de grandeur-là, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, il y a besoin d'à peu près 5% de la production d'une éolienne pour produire cette éolienne. Et il y a besoin d'à peu près 10% de la production d'un panneau photovoltaïque pour produire ce panneau photovoltaïque. Et je pense que les valeurs dans l'article qu'on a regardé, elles doivent être. Alors, eux, ils corrigent d'un certain. Non, pardon, c'est pas cet article-là. Eux, ils corrigent d'un certain nombre de trucs, mais ça doit être dans ces eaux-là, je pense. Le taux de retour énergétique, où on peut le voir. Voilà, le plus bas pour le photovoltaïque, il est à 7. Et à mon avis, ils sont à une. On peut les voir où? Vous voyez, le photovoltaïque, il va être ouais, autour d'une dizaine. Mettons entre 7 et 20. Ça. 20, ça me paraît un peu dur, mais moi je dirais entre 7 et 15, quoi, par là. Et puis l'éolien, je vous ai dit autour de 20, donc ils ont des valeurs autour de 20. Mais c'est pas étonnant parce que j'ai utilisé une méta-analyse de la littérature, donc normalement ça devrait correspondre. Donc voilà, si ça répond à la question de Moquette et Louis Pouzin. Tu prévois une augmentation de la consommation énergétique, tu ne crois pas du tout en une diminution. Alors, Louis Pouzin, tu prévois une augmentation de la consommation énergétique, tu ne crois pas du tout en une diminution par sobriété ou pauvreté. Alors, diminution par pauvreté, ouais, c'est une bonne question. Moi, j'ai du mal à y croire à ça. Diminution par sobriété, pourquoi pas? Et surtout, diminution par efficacité. Diminution par efficacité, parce que ce que je dis, c'est
Bonjour à tous.
j'aurais du mal à parier sur une augmentation de la production de la consommation énergétique finale en France, par exemple. Pourquoi? Bah, parce que ce que je viens de dire. Donc là, on est sur la vidéo que j'avais faite sur le rapport RTE, à mon avis, qui est indispensable. Enfin, non, pardon. Putain, je me la pète grave. Il y a des éléments importants à comprendre là-dedans pour comprendre la transition. Et notamment, ce dont on a parlé ici, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est. Ce qui sort de la stratégie nationale bas carbone, qui est un peu la feuille de route de la France sur le climat. Et il y a eu le rapport de RTE qui a regardé plus spécifiquement sur l'électricité. Et là, on regarde quoi? On regarde l'énergie finale, donc l'énergie consommée par l'utilisateur final, que ça soit une entreprise ou un particulier. Et on voit que, y a l'électricité, mais en France, on est un pays fossile comme les autres, hein. On a du pétrole pour le transport, on a du gaz pour chauffer, on a du bois, ça se discute, mais. Et on a l'électricité. Alors dire, oui, on est exemplaire, on est les premiers élèves parce qu'on a du nucléaire. Oui, les gars, on a tout ça à dégager, hein. Et donc, si on remplace ça par l'électrification, donc par exemple, voiture électrique, pour voiture thermique, poids lourd électrique pour poids lourd thermique, le rail il est à peu près électrifié, eh bien on a une réduction de la consommation d'énergie finale. Pourquoi? Parce que avec 100 TWh d'électricité, on dégage 300 TWh de pétrole. Parce qu'avec 100 TWh d'électricité dans des pompes à chaleur, on dégage 300 TWh de gaz. Et là, rien qu'avec l'efficacité, à mon avis, je parierais plutôt sur une réduction de l'énergie finale qu'une augmentation. Par contre, je parierais sur une augmentation de la consommation d'électricité. Je sais pas si c'est clair la différence, Louis Pouzin. Et après, dans ces scénarios, alors dans celui-là, je crois pas qu'il y en ait beaucoup, mais dans ces scénarios, on peut ajouter des évolutions de la consommation, qu'on peut appeler sobriété, on peut imaginer différentes choses, on peut essayer de la faire porter sur des secteurs difficiles à décarboner. L'aviation, par exemple, ou sur des secteurs qui n'apparaissent pas ici parce qu'ils sont en dehors de l'énergie, la consommation de viande. Et alors, je ferai pas des paris sur les volumes que ça représente, mais je pense que c'est important et moi je l'applique dans ma vie. Après, vu que je ne suis pas dictateur, je peux pas imposer mes valeurs ou ma façon de voir aux autres, et ça pose des questions des limites de la sobriété quand on pense la politique à l'échelle de la société. Mais en tout cas, ouais, si je devais faire un pari sur la consommation d'énergie finale en France, je trouve que ce type de projection est plutôt crédible. Je sais pas si, si Louis Épousin est encore là, mais en tout cas, si, je sais pas si c'est clair, mais je pense que ce truc de RTE est notamment. Je sais qu'il y a des personnes, quand cette figure est sortie, enfin, ouais, c'est la dictature de l'État qui va imposer la sobriété. Non, c'est beaucoup d'efficacité. Et ça, c'est encore un truc qui est mal compris. Et vous savez quoi? C'est le même truc que ce dont on a parlé pendant l'emploi. C'est on remplace des technologies fossiles qui sont claquées au sol, qui sont complètement nulles. Et ça, faut en avoir conscience. Et du coup, j'ai fait une partie, voilà, réduire de 40% l'énergie finale, qui insiste là-dessus, qui est un truc qui est tellement jamais évoqué que tout le monde bug là-dessus. Et c'est pareil sur le taux de retour énergétique. C'est l'éléphant au milieu de la pièce à chaque fois, quoi. C'est un truc de ouf. Et pourquoi c'est pas évoqué? Je veux dire, c'est notre meilleur. C'est une bonne nouvelle dans la. Ah, c'est pour ça que c'est pas évoqué. C'est une bonne nouvelle dans la transition énergétique. C'est pour ça que c'est pas évoqué. Louis Pouzin, je vois pour moi le plus gros effort est la sobriété, pas l'efficacité énergétique. Alors. Il y a deux questions un peu différentes là-dedans. C'est effort au sens sacrifice, au sens où il faut mettre les forces politiques et tout. Peut-être, hein, parce que c'est des transformations qui sont difficiles. Après, si tu penses que c'est le premier facteur de réduction, ça dépend des paris politiques que tu fais. C'est ouais, tu dis c'est de la croyance, mais c'est des paris que tu fais sur l'avenir. C'est Ça se défend. J'aimerais bien faire une vidéo sur la sobriété ou essayer de quantifier ça. Voilà. Quels sont les gisements, sur quel levier on peut pousser, etc. Et c'est vrai que ça peut jouer un rôle important dans les pays développés. Après, quand on regarde au niveau mondial, quand on se retournera, si on arrive à faire la transition, au niveau mondial, je pense pas que la sobriété, ça soit un facteur qui passe avant ce type de conversion. Ouais. Mon micro sature à nouveau, mais je suis désolé, je vais encore le baisser. Ah, je me rapproche en fait. Je me rapproche et je crie. Voilà. Adrien D, t'as pu jeter un coup d'œil sur le rapport Métaux pour la transition de l'IUA du 17 mai? Non, j'ai pas regardé du tout. Et Ozano a fait un beau raccourci? Je suis pas j'ai pas vu. Ah, c'est dommage. Ouais, non, mais j'avais déjà assez pour aujourd'hui. Omelette au fromage, est-ce qu'il y a un taux de retour énergétique calculé sur le stockage, batterie ou step dans le cas de scénario 100% renouvelable? Alors, c'est une bonne question. Dans le papier, ils ont essayé de le faire, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure à cet endroit-là. Et ils donnent des scénarios M0 et M23, par exemple, c'est les scénarios de RTE 100% renouvelable. Et j'avais essayé de le faire aussi dans la vidéo. C'est pas évident, hein, mais j'avais essayé de le faire dans la vidéo. Et alors, qu'est-ce qu'on peut donner Ah non, c'est pas celle-là, pardon.
Bonjour à tous.
Et c'est vrai par exemple que quand on a du nucléaire, on s'en sort un peu mieux, hein, ce qui peut paraître évident, mais je l'avais fait dans la vidéo et on voyait que. Est-ce que j'ai la slide où on voit tout? Quel travail cette vidéo, c'était sans fin.
Taux de retour énergétique faible. En partie, les faux de coûts énergétiques au niveau de l'ensemble de l'humanité ne concluent pas à une baisse inquiétante du taux de retour énergétique.
Donc si ça t'intéresse, dans la vidéo, j'avais fait l'énergie finale pour les ressources fossiles. L'énergie secondaire finalement pour les moyens de production électrique et l'énergie finale pour des systèmes entiers, avec des nucléaires qui s'en sortent mieux que du renouvelable. Après, bon, il y a toujours des questions de méthodologie quand on fait des trucs comme ça dans le taux de retour énergétique. Et puis, il y avait aussi sur un système énergétique au niveau mondial, donc pas juste l'électricité, et avec un taux de retour énergétique qui ne baissait pas forcément. Et donc là, il y a au moins des tentatives de prendre en compte. Les moyens de production. Ouais. Ripley dit, je pense malheureusement que la sobriété va se faire de manière économique et toucher les plus modestes. Bah, c'est ce qu'il faut éviter, d'où la notion de justice de justice de transition juste dont on a parlé avant, qui inclut de plus en plus ces notions-là. Et dont on a parlé, par exemple, quand on parlait de la taxe carbone, ou plus généralement de la tarification du carbone, comment on fait pour que ça soit pas les plus pauvres qui trinquent. Moi, franchement, j'exclus pas que demain, on ait l'électricité qui soit moins chère qu'aujourd'hui. Hein. Moi, je pense que la sobriété vient aussi avec l'efficacité énergétique. Beaucoup de gens ont pris conscience du lien entre vitesse et mode de conduite et consommation en passant à la voiture électrique, car l'impact est directement visible sur l'autonomie. Dans ce cas, efficacité induit sobriété. Eh oui. Et moi, j'ai un papa qui roule à 120 km/h maintenant sur l'autoroute. J'aurais pas pensé ça possible. Effet de la voiture électrique. Donc, ouais. Sobriété, j'ai abandonné ma voiture diesel pour une moto 125 électrique. Ben, clairement, hein, moins d'impact à la production, moins d'utilisation. Et en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur la mobilité électrique, en fait, le gain par rapport au thermique est d'autant plus grand que le moteur est petit. Parce qu'un petit moteur électrique, ça reste efficace. Un petit moteur thermique, ça l'est de moins en moins. Un vélo électrique, c'est quand même incroyablement plus efficace qu'un comment ça s'appelait les Solex, non? Donc ouais, si vous pouvez vous passer d'une voiture et passer sur une voiturette ou passer sur une petite moto ou passer sur un vélo électrique ou passer sur même une trottinette électrique. Alors si la trottinette électrique remplace le métro, c'est pas incroyable, mais si elle remplace des trajets en voiture, le gain il est important. Hein. 42 max B, il me semble que c'est assez méconnu que les frottements sont proportionnels au carré de la vitesse. Ouais, et il y a un autre effet en fait qui est très différent entre les voitures thermiques et les voitures électriques, c'est que la voiture électrique, sa consommation va augmenter avec la vitesse. Alors pas linéairement, hein, parce qu'effectivement il y a un carré là-dedans. Alors que sur les voitures thermiques, dans un premier temps, la consommation baisse avec la vitesse. Parce qu'à bas régime, une voiture thermique, c'est vraiment, vraiment pas efficace. Il y avait une belle figure dans la thèse d'Aurélien Bigot là-dessus. Alors je sais pas ce que c'est la consommation d'une 125 électrique, mais là ils ont fait une. Je sais pas ce que c'est cette. Là ils ont fait une petite moto, vous voyez, 15 kWh, c'est un tiers d'une Zoé, la batterie. Elle a une autonomie de 200 km, pardon, 188. Je sais pas si on fait beaucoup plus en moto d'un coup. Je connais pas la moto, je suis désolé. Et vous voyez, elle consomme 7 kWh au 100, quoi. C'est le contenu de chaleur d'un litre d'essence ou de diesel, c'est 10 kWh à peu près. Elle consomme 0,7 litres au 100. Je triche, hein, c'est de l'ELEC, c'est mieux que de la chaleur, mais vous voyez l'idée. Elle consomme deux fois moins que la voiture électrique la plus efficace de leur classement. Ah, et Mathieu 150 dit exactement, une moto consomme 7 litres au 100 comme une voiture. Alors que là, c'est 7 kWh. C'est un facteur 10. C'est un facteur 10 en consommation d'énergie. C'est très drôle. Navislai, mieux que la Ioniq 28. Bah ouais, c'est pas une voiture. Si tu me sors un vélo, c'est mieux qu'une Ioniq, hein, c'est certain. Hein. Et Fabchez, bonne remarque hein, sur la nuisance sonore. Moi, j'ai fait ma thèse sur l'impact du bruit. Et il y a cette notion en acoustique qu'on appelle l'émergence, qui est quel est le bruit que vous entendez, quoi. Qu'est-ce qui sort du bruit de fond? Et l'émergence, dans toutes les villes, ce sont les deux roues, quoi. C'est ce qui réveille, c'est ce qu'on entend, c'est ce qui gêne. Et là aussi, hein, moi président, bam, plus de voitures thermiques, plus de voitures thermiques. On attend 2035 comme il y en a qui font s'énerver, mais plus de deux roues thermiques, genre demain matin, quoi. Ok, est-ce que vous avez aimé Anna Ricci? Voilà, et je voulais parler un peu de biodiversité. Ah, Bambi se dit, je suis à 7,35 km au 100 km. Donc, t'es pas mal, t'es comme sur leur référence. Ça veut dire que leur truc est pas trop mal fait. Bon, on est une petite centaine. Ce live est en perte de vitesse. J'y mets du mien pourtant. Et je voulais vous parler un peu de. Merde. De l'onglet que je viens de fermer. Ah, wow, je sais même pas comment j'ai fait ça. Je voulais vous parler un petit peu de biodiversité. Et on va regarder un papier que Loïc avait mis sur le Discord qui a 3 semaines déjà. On va regarder le papier peut-être directement. Je l'ai quelque part. C'est bien rangé tout ça. Hein. C'est bien rangé. Simgasa, est-ce qu'il y a interdiction des deux roues thermiques à la vente en 2035? Ben, figure-toi que j'en sais rien. Comme quoi, je me suis jamais posé la question. Alors, on regarde ici, on va regarder un article qui est sorti dans Science le 25 avril, donc il y a presque un mois. Et celui-là, il est derrière un paywall par contre, donc quelqu'un me l'a gracieusement envoyé parce qu'il n'était pas sur les endroits où je trouve mes articles d'habitude. C'est assez intéressant, vous voyez que c'est un gros travail, il y a quand même beaucoup d'auteurs. Je connais pas assez ce milieu-là pour savoir qui est fort en quoi là-dedans. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est une grosse comparaison entre différents modèles, modèles de biodiversité au niveau mondial. Et ils ont regardé le déclin de la biodiversité et ensuite ils l'ont projeté dans le futur en fonction de différents scénarios. Alors évidemment, les politiques vers la soutenabilité ont le potentiel de réduire les pertes de biodiversité et résultant de l'usage des sols. Mais ce qui montre, c'est que c'est surtout ça qui m'intéresse. On va y passer un peu de temps. Ce qui montre, c'est que les impacts négatifs du changement climatique sur la biodiversité vont augmenter, et particulièrement dans les scénarios où il y a beaucoup d'émissions, plus de changement climatique. Il y a cette pression du changement climatique qui est de plus en plus importante. Alors peut-être ce qui est intéressant, c'est de faire un petit point avant sur le fait qu'il y a On m'a clippé sur les voitures thermiques. Je vais me faire un nouveau groupe d'ennemis. Merci beaucoup à tous. Sur les deux roues thermiques, pardon. Donc ça, c'était un article sur la difficulté de hiérarchiser les causes qui impactent la biodiversité. Et on voit que ça dépend de... Est-ce qu'on regarde quelles caractéristiques ou quel système ou quelle métrique on regarde, mais vous voyez que les grandes causes, les cinq grandes causes, hein, ça va être la pollution qu'on évoque souvent, notamment les pesticides, etc. Et vous voyez que dans la plupart des hiérarchies, c'est pas la première. Ensuite, il y a alors ce qui a plus de poids que le reste, quand même, je pense là-dedans, c'est l'IPBES, hein, qui est un peu le GIEC de la biodiversité, et donc c'est vraiment une grosse revue de la littérature. Et à côté de ça, le travail du double. WWF ou de l'IUCN, bah, ils n'ont pas les mêmes moyens. Je pense que ça n'a pas la même portée. Je ne suis pas un expert de ces domaines-là, mais... Et l'IPBES, vous voyez que la première pression, c'est la dégradation des habitats et la perte d'habitat. Donc le fait qu'on utilise de plus en plus de territoires et qu'on en laisse de moins en moins à la nature. Si vous prenez les terres émergées, il y en a à peu près un tiers qui sont exploitées par l'agriculture. Et si vous excluez les déserts, les glaciers, etc., vous avez à peu près la moitié des terres exploitables qui sont exploitées par l'homme. Donc ça laisse quand même pas tant de place, enfin de moins en moins de place pour les environnements naturels. Ensuite, il y a la surexploitation, hein, notamment la surpêche qui est le premier facteur de pression dans le milieu marin. Ensuite, vous avez le changement climatique, vous avez différentes formes de pollution, et puis vous avez les invasions biologiques, les espèces exotiques envahissantes, etc., qui peuvent être assez importants sur... Par exemple, les oiseaux ou les reptiles. Et j'aime bien qu'ils aient mis un picto de chat. Et vous voyez par exemple que si on regarde les espèces en liste rouge, c'est une des pressions les moins fortes. Alors que si on regarde les espèces qui ont disparu, bah, la première pression, c'est ces invasions biologiques. Notamment sur des écosystèmes fragiles comme des îles, vous amenez un rat ou un chat. Enfin non, pas un seul, vous en avez deux, trois pour qu'ils puissent se reproduire. Et puis ça vous saccage l'environnement assez rapidement. Et donc là, on en est là aujourd'hui avec un changement climatique qui est une pression importante, hein, c'est reconnu comme tel, mais qui est surtout une pression en croissance. Et donc ce qu'ils ont essayé de regarder dans cet article, c'est comment ça va évoluer. Alors attendez, je regarde. Ah, est-ce que je peux changer de titre au vol comme ça? Je crois que je peux. Comme ça, s'il y a des gens qui se perdent sur Twitch. Bonsoir, bonsoir, Scabourse. 42 Max B, actuellement les fake news et la manipulation de l'opinion me fait beaucoup plus peur que le changement climatique. Ça se défend, je peux comprendre. Tu peux suivre le travail de Science for All si c'est pas le cas. C'est peut-être pour ça que on n'est que 100 sur ce live. Il faudrait que je fasse des lives sur la désinformation. La semaine prochaine, il faudrait peut-être parler un peu des élections. Mais je suis pas hyper chaud là-dessus. N'hésitez pas à me mettre sur le Discord les meilleures interventions, notamment sur l'écologie dans le cadre des prochaines élections européennes. Ce serait bien de le mentionner. Je pense que le prochain mardi, c'est le dernier avant le vote, non, le prochain mardi? Ce serait peut-être pas mal que j'ose. FabChess, faire des annonces plus tôt, ouais. Ouais, c'est vrai, je suis désorganisé. Gifereux, mince, ma boton interdite dès demain par le président de Le Réveilleur. Non, pardon. Pardon. Je suis pas non plus violent à ce point. Interdiction des ventes de véhicules neufs. Et ensuite, le parc est remplacé petit à petit. C'est la même chose que pour les voitures thermiques. Ça va pas être interdit d'usage en 2035. L'avant-dernier. Ok, il faut que je regarde. Ok, il faut que je m'organise. Alors, classement des différentes espèces. Et donc, ce qu'ils ont regardé, c'est l'impact du changement d'affectation des sols. Alors, il y a différentes métriques pour la biodiversité et je les connais pas bien. Donc, voilà, vous avez Global Species Richness, la richesse globale d'espèces, Local Species Richness, la richesse locale d'espèces, l'étendue de l'habitat et l'intactness, le fait que la biodiversité n'ait pas été affectée. Et là, on voit l'évolution entre 1900 et 2015 et les projections jusqu'en 2050, pardon. Donc là, ici, l'historique, c'est l'évolution qui a déjà eu lieu, donc c'est une perte d'un certain nombre de pourcentages, vous voyez que par décennie, historiquement. Et ensuite, est-ce que on va poursuivre au même rythme de dégradation dans les différents scénarios, avec un scénario idéal, un scénario de rivalité régionale, donc qui met souvent une pression assez importante sur l'usage des sols, si je me souviens bien. On lira ce qu'on a dit Loïc après, qui a fait un bon résumé. Et puis un scénario avec beaucoup de ressources fossiles. Et là, vous avez l'impact quand on regarde que les impacts du changement d'affectation des sols. Et puis à côté, vous avez l'impact quand on ajoute aussi le changement climatique. Et vous voyez que ça change vraiment beaucoup de choses. Après, ils ont spécifié aussi les modèles qu'ils utilisent et tout. Et là, c'est pareil, c'est l'impact quand... Attendez. Ah ouais, là c'est l'historique, donc il y a une dégradation qui est globale. Là, c'est quand on regarde juste l'impact du changement d'usage des sols. Donc vous avez des régions du monde où ça s'améliore, notamment dans les pays en voie développée, dans les pays développés, s'il y a une pression sur le changement d'usage des sols qui se réduit, qui est quelque chose qu'on observe chez nous. Hein. Alors après, on peut discuter de est-ce que c'est à quel point on met cette pression ailleurs dans le monde. Mais là, voilà, on est dans des situations où il y a quand même des régions du monde qui s'améliorent un peu. Par contre, si on prend plus en compte le changement climatique, ben, c'est une dégradation générale et qui peut être assez importante. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Après, il montre aussi comment vont évoluer un certain nombre d'indicateurs, donc par exemple, enfin, augmentation par décennie en plus. Donc on voit que dans les scénarios de développement durable, on a une augmentation de la production de bioénergie, par contre, on a une réduction de la production de food and feed, donc je pense qu'il y a une réduction de la consommation de viande, peut-être. Ah non, c'est une moindre augmentation, je saurais pas trop interpréter. Et donc ça, c'est des choses où ça s'améliore, l'écosystème carbone, vous voyez que c'est pas incroyable, parce qu'on a des puits de carbone qui prennent un peu cher. Et puis, il y a des services écosystémiques où tout se dégrade, notamment les résiliences côtières qui dépendent essentiellement du changement climatique. Donc là je connais pas entièrement tous ces services écosystémiques, je serais pas le meilleur guide. Mais le truc important, je sais pas à quel point c'était clair dans l'abstract. Ah merde, parce que Il y a un endroit. Alors c'est peut-être en conclusion. Attendez, je vais essayer de retrouver. Il y a un endroit qui est intéressant quand même. Donc là, il parle des extinctions. Aujourd'hui, dans les extinctions, il n'y a pas un rôle si important que ça du changement climatique. Alors, ce qui est dommage, c'est... Ce qui est dommage, c'est qu'on a des projections que jusqu'en 2050. Ouais, c'est trop long de le lire avec vous. J'aurais dû le surligner, je suis idiot. On va regarder ce qu'en dit Loïc parce qu'il avait chopé les bons passages. Attendez. Singassa, CC, acidification des eaux pour les zones côtières. Ah oui, acidification des eaux, ça va jouer sur la productivité des pêcheries, etc. Mais je pense que là, ce qu'on voyait dans l'article, c'était vraiment juste. Ah, c'est une bonne question. Je sais pas ce qu'ils mettent derrière. C'est une bonne remarque, ouais. Les deux premiers scénarios, c'est. Alors, c'est quel SSP? Ouais, je pense qu'il sait mieux que moi, ça, Loïc. L'article revient sur les impacts des usages des terres de 1900-2015, historique, avant de les comparer à trois scénarios aux évolutions distinctes pour la période 2015-2050. Je peux peut-être vous le mettre là. SSP 1, le sustainability. SSP 3, Regional Rivalry. SSP 5, pour. Ben, tout le monde fait n'importe quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, cependant, avec l'élévation de la température, le changement climatique risque de devenir le premier facteur, et ce, dès la prochaine décennie, comme le montre cette étude. Le résultat serait sûrement encore plus frappant avec des projections à l'échéance 2100. Papier montre l'intérêt des politiques de gestion durable des usages des terres ainsi que l'importance de l'atténuation forte des émissions de gaz à effet de serre pour la sauvegarde de la biodiversité. Et ça, je pense, c'est un truc qui est vraiment important, en particulier avec un discours qu'on entend parfois qui est tunnel carbone, mais vous pensez qu'aux émissions de CO2, il faut prendre en compte tout le reste, etc. Et là-dessus, il faut quand même avoir conscience que, certes, aujourd'hui, le climat, c'est pas la première pression, mais vous voyez qu'il y a des recherches comme ça qui montrent que ça peut le devenir. Et puis, il y a un autre truc aussi à avoir en tête, c'est que les ressources fossiles ne causent pas que le changement climatique. Hein, vous voyez, bon, moi, j'aime pas trop le framework des limites planétaires, mais là, ils ont montré que quand on ajoute une friction sur la consommation de ressources fossiles, en l'occurrence une tarification du carbone, ça réduit des impacts des limites planétaires, et en fait ça en augmente d'autres parce que on a des remplacements par notamment des agrocarburants. Et quand on ajoute des restrictions sur les agrocarburants, eh bien on voit qu'on diminue toutes les limites planétaires. Donc il y a vraiment ce truc de tunnel carbone ou pas, les ressources fossiles, en fait, ça pourrit tout. Et il y a pas tant de trade-off que ça entre changement climatique et bio. Alors il peut y en avoir, notamment agrocarburant, c'est un bon exemple, mais de manière générale, il ne faut pas croire que lutter contre le changement climatique, c'est dégrader la biodiversité. Et la première raison pour laquelle il ne faut pas croire ça, c'est parce que le changement climatique est déjà une pression sur la biodiversité et va devenir peut-être la première assez rapidement, quoi. Et donc, autant on peut dire que régler le problème du changement climatique réglera pas le problème de la biodiversité parce qu'il y a d'autres pressions dont il va falloir discuter. Et là, il y a des adaptations aussi. On peut reparler de sobriété et d'évolution notamment du régime alimentaire. Donc on peut dire, ok, régler le changement climatique, ça règle pas le problème de la biodiversité, mais on peut pas régler le problème de la biodiversité sans régler le problème du changement climatique. Il y a pas un monde où on continue de brûler des ressources fossiles et la biodiversité s'en sort bien, quoi. Donc voilà, attention à ça. Voilà ce que je voulais dire sur la biodiversité. Est-ce que j'ai envie de parler de ça? Je sais pas trop. Ici, par ailleurs, je dois filer. Merci pour le stream. En passant au comptage des piafs ce week-end. Cool. Les élections européennes auront lieu le dimanche 9 juin 2024. 2024, 9 juin. Donc là, 28. Ah ouais, en fait, il m'en reste deux. Bien joué. En plus, je savais que c'était le 9 juin, mais je sais pas compter. Je sais pas compter. Ouais, je sais pas trop quoi faire pour cette occasion, mais ça serait peut-être bien que je fasse quelque chose. S'il y en a un qui ont un avis là-dessus, n'hésitez pas à le mettre sur le Discord. Ah, et s'il y a un ingé son qui a envie de m'expliquer les trucs et de me filer un petit coup de main, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je suis jamais satisfait des traitements que je fais sur ma voix. Je regarde des tutos et tout, mais je me sens nul. Si quelqu'un a un peu de savoir-faire là-dedans, je suis intéressé. Je crois que j'ai parlé à peu près des sujets que je voulais discuter. Je ne sais pas si ça soulève des questions sur la biodiversité. Et que dire d'autre? Et si vous voulez, s'il y en a que ça intéresse, mais je sais jamais s'il y en a que ça intéresse, je peux faire un sondage peut-être. Je peux faire un sondage. Comment on fait un sondage? Merde, oh non, oh, je suis n'importe quoi. Je peux vous montrer mes quelques photos si ça vous intéresse. Sinon, vous mettez non. Au pire, vous pouvez partir. Mais je sais pas combien de personnes ça parle. C'est un peu ça. Et après, attendez, il y avait quelques questions peut-être. Intéressant l'analyse en fonction des SSP, cela contraste avec l'imaginaire, un futur où le sol est 100% rempli de PV ou de mines de métaux. Ah ouais, non, mais clairement, mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même ce discours des métaux de la transition qui vont détruire la biodiversité et tout. Merci Madame Stéphane, notamment. Et puis même, ce truc des photovoltaïques, c'est assez intéressant parce que j'ai fait le calcul enfin, vous verrez. Vous verrez. Et en fait, même si on voulait remplacer toutes les ressources fossiles, il faudrait genre couvrir 1% de la surface de la Terre de panneaux. De la surface continentale, pardon. Sachant que la moitié de la surface, enfin un tiers de la surface continentale des terres émergées est dédiée au système agricole, quoi. Genre, on diminue de quoi? On diminue de 3% de notre consommation de viande et on dégage assez de terre pour mettre des panneaux. Enfin non, parce que 1% de panneaux, ça doit être à peu près, ça doit être moins que la surface des villes, donc t'as même pas besoin de tout mettre au sol. Enfin, vous voyez l'idée, c'est juste que en ordre de grandeur, c'est pas tant que ça en fait. Et il y a même un argument qui est plus puissant que ça, qui est le photovoltaïque, c'est beaucoup plus efficace que des agrocarburants pour des utilisations qu'on a des agrocarburants. Ben, au lieu de mettre des agrocarburants, vous mettez du photovoltaïque à la place et game over quoi. Et ouais, je sais pas comment on peut lutter contre ce type de discours qui exagère et qui se plante un peu sur les ordres de grandeur ou sur les impacts relatifs de ces technologies par rapport à ce qu'on essaie de remplacer. Ouais, ça se calcule assez facilement. C'est l'ordre de grandeur, quoi. Attendez, je pense que carbon brief. Je vais pas trouver. Carbon brief, ils ont fait un article qui m'a trop fait rire sur. Parce que au Royaume-Uni aussi, il y a ces polémiques sur. Voilà. il y a ces polémiques sur le PV au sol, le photovoltaïque au sol, et ils ont montré que... Donc, là, c'est toutes les surfaces... alors là, ils ne remplacent pas toute l'énergie, hein, c'est ce qu'ils prévoient de déployer au sol. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais là, il y a l'ensemble des surfaces, ils prennent 1%. Et dans ce pourcentage-là, vous voyez le solaire qui est déjà installé et ce qu'ils veulent mettre au sol. Et ça, ça représente autant que ce qu'utilisent comme surface les aéroports. Et c'est moins que les cours de golf. Donc, Mais ça se calcule. On en parlera quand vous verrez. On sera amené à en reparler, je pense. Et puis là, la classique, ça c'est combien vous pouvez faire de. Ils ont mis ça. Ah non, en kilomètres. Combien vous pouvez faire de kilomètres par hectare si vous mettez du photovoltaïque dans une voiture électrique ou si vous utilisez de l'éthanol, quoi. Et en fait, le rapport, ben, y a 1 ou 2 ordres de grandeur entre les deux. Ça aussi, c'est la classique, quoi. Et en fait, il y a 2 arguments, je pense, sur le déploiement au sol du photovoltaïque, c'est de montrer ça dans l'absolu. Ou de comparer avec des agrocarburants et de la place qu'ils prennent déjà. Ou de comparer avec des gains qu'on pourrait avoir de l'autre côté en faisant des efforts sur, par exemple, la consommation de viande ou sur les gâchis alimentaires. Ou... Parce que par contre, ce qui est assez impressionnant, et on en reparlera aussi, c'est la taille du système alimentaire. Ça, c'est quand même se dire que vous retirez les déserts et les glaciers, la moitié des surfaces qui vous restent, l'espèce humaine se... Comment on dit, se l'arroge pour sa consommation essentiellement alimentaire. C'est assez ouf, hein. Je veux bien qu'on soit inefficace, mais quand même. Donc voilà, solaire. Alors là, c'est au Royaume-Uni, hein, faudrait faire le même exercice en France. Je pense que Damien Sahel, a fait la même chose pour la France. Donc vous voyez, par rapport à agriculture et prairie. Surtout si on peut combiner les deux. Enfin bon, il y a plein de questions derrière, mais aujourd'hui on fait quand même un flanc de pas grand-chose. Et les personnes qui rentrent dans ces luttes, j'ai quand même du mal à comprendre. Après, il y a un argument qui peut être, mettons d'abord sur les parkings, etc. Mais on peut faire un peu en même temps. Et puis l'avantage aussi du photovoltaïque au sol, c'est que souvent c'est sur pieux, donc le sol il n'est pas artificialisé. Vous voyez, c'est pas. Alors vous devez peut-être bétonner les accès ou le transformateur, mais en tout cas, c'est pas toute la surface qui est bétonnée. Navis, ah, j'ai fait un post Twitter là-dessus. Je me souviens même plus. Pourtant, j'en fais pas tant que ça. Carbon Brief, il y a carbone dans le nom, donc forcément, ils sont en plein dans le tunnel carbone. Alors Carbon Brief, pour le coup, ils sont quand même forts sur tous les sujets hors carbone, les notions d'équité, de justice sociale, de justice climatique et tout, ils sont au taquet, hein. Le choix des lieux est pas toujours opportun pour le photovoltaïque. C'est jouable le golf dans le désert. 1% de la surface émergée, c'est 2,7 fois la France hexagonale pour échelle. Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, c'est possible. Mais après, on met pas tout en France. Tu te dis, c'est 1% de tous les pays. Je pense qu'il faut comparer par rapport au système agricole ou par rapport à la place des villes ou par rapport à la place des golfs ou des aéroports. Ou... Ça permet un peu de relativiser. Ouais, je peux vous mettre le lien de Carbon Reef. Ouais. Et je pense que... Attendez, est-ce que je peux retrouver ça rapidement? Damien Salel. Il l'avait fait pour la France. Ah, mais ça fait peut-être longtemps. Et je sais pas si c'était le premier visuel de son. Ah, si. Je vais vous le mettre quand même. Vous voyez, superficie de la France métropolitaine, territoire agricole, forêt et milieu semi-naturel. Terrain dédié aux biocarburants de première génération. Il est assez bon quand même. Terrain artificialisé, bâtiments, routes, etc. Équipements sportifs, dont golf, camping, etc. Aéroport et le photovoltaïque envisagé. Alors, voilà, ça reste le système de production d'énergie qui doit prendre le plus de place par kilowattheure. Évidemment, il vaut mieux en mettre sur les toits, sur les parkings et tout avant. Mais en fait, l'énergie qu'on utilise à des fins énergétiques, c'est pas tant que ça par rapport à l'énergie qu'on utilise pour l'alimentation. Et en termes de surface, c'est vraiment flag, hein. C'est vraiment flag. Du coup, c'est vraiment des problèmes, c'est des problèmes d'ordre de grandeur. Et donc pour l'instant, l'objectif PV 2035, puis pour et celui qu'on a déjà, on est en dessous du pourcent. Et si on va dans des M0, je sais pas quoi, on est peut-être au pourcent, mais on se bat pour 1%. Je sais pas si le golf pollue tant que ça. Ouais, je suis d'accord avec les commentaires. Je pense que c'est les déplacements qui vont pas mal jouer. Mais le golf, je pense que ouais. Même les tournois de sport et tout, ça va être beaucoup l'organisation, les déplacements, et puis après vraiment la pratique, ben, si vous brûlez de l'essence, vous partez avec un désavantage. J'espère que la petite voiturette de golf soit électrique. Ils prennent de la place, mais on pourrait rétorquer que c'est vert quand même, le golf. Un pour cent des terres émergées, c'est 1,5 million de kilomètres carrés, soit 1,5 million de terawattheures par an. Donc ça serait moins de 1% de ce qu'on a besoin, parce qu'1,5 million de terawattheures par an, c'est beaucoup quand même. La consommation de ressources fossiles, c'est un dixième de ça, non? Ouais, j'avoue, un golf, il n'y a pas beaucoup de biodiversité. C'est vrai, Mathieu 50. C'est vraiment juste un gazon stérile, quoi. Moi. Ma pelouse, elle est pas tondue. Enfin, mon petit jardin, il est pas tondu depuis le printemps là. Il y a plein de trèfles, c'est très très grand. Et attendez, j'ai pas regardé le sondage. Voilà le résultat. Ah, vous voulez voir mes photos, mais vous êtes tellement gentil. Bah écoutez, s'il y a plus trop de remarques, je peux vous montrer les photos. Vous n'êtes pas beaucoup à avoir voté, hein. Tout le monde s'est endormi. On peut regarder un peu mes photos, voilà. Si j'y arrive, je pense que je vais y arriver. Alors, photo. On passe aux photos? Ouais, je fais du fauchage tardif. Mais franchement, ça fonctionne bien, hein, parce que j'ai plein de fleurs et il y a vraiment beaucoup de pollinisateurs dessus. Hein. Et le thym est en fleurs et ils adorent ça. Et la ciboulette aussi, ils adorent ça. Mais j'ai laissé les trèfles sont montés assez haut et je pense que les pollinisateurs ont un truc sur le violet quand même, non? Alors, photo. Je me suis un peu craqué. Donc maintenant j'ai un téléobjectif qui est gros, qui est lourd. C'est un Sigma 100-600 mm. Alors vous allez me demander l'ouverture et tout. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien pour les personnes qui comprennent la technique. Et j'ai été un peu aidé hein, parce que je suis pas un expert de tout ça. J'ai été aidé par un mec hyper sympa qui m'a contacté par mail suite à un live. Et donc j'ai ce téléobjectif et j'ai aussi un nouveau boîtier qui est pas celui-là. Ça, c'est mon G80 que j'utilisais avant. Et maintenant j'ai un Alpha 7 R3. Donc R, c'est pour résolution un peu plus importante. Et waouh, la différence, c'est assez impressionnant. Parce que je suis passé d'un micro 4 tiers sur un G80 à un full frame avec une grosse résolution. Et avant, je pouvais quasiment pas zoomer sur une photo. Et maintenant, je peux zoomer. Donc merci, je ne sais pas s'il est là, mais merci à Mathias qui est la personne qui m'a aidé à faire un peu tous ces choix. C'était pas évident, c'est un investissement qui est pas négligeable. Hein. Ah non, non, c'est un. Alors je l'ai eu d'occasion. Je l'ai eu d'occasion à peu près la moitié de son prix, le téléobjectif. Et j'ai eu une bonne offre aussi sur le boîtier. Mais c'est un gros investissement et moi qui n'en fais pas tant que ça, j'ai pas mal réfléchi. Mais c'est quand même. Même si j'en fais pas tant que ça, c'est un peu mon plaisir, quoi. Et il y a un truc qui est vraiment impressionnant avec un téléobjectif comme ça, c'est que bah tu vois vachement bien les animaux et les plantes, quoi. Vraiment, quand tu les prends et que tu joues avec ta bague du mise au point et qui te refait un zoom numérique, C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Tu prends une grenouille au téléobjectif, quand tu as ce zoom numérique en plus, tu vois le sang qui est en train de battre sous sa peau. C'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, je l'utilise un peu en jumelle, quoi. J'étais près d'une rivière la dernière fois et il y avait une tortue, mais elle devait être à 15 mètres. Et au téléobjectif, je peux voir la tête et savoir si c'est une tortue de Floride ou une cistude. Parce que les tortues de Floride, il y a une petite tache rouge là. Et avec un téléobjectif comme ça, ça se voit. C'est un truc de ouf. Par contre, ouais, c'est grosse montée en gamme. Déjà, le G80, c'est pas un objectif qui sert à rien. Après, bah, je peux me justifier en disant que ça vous permettra d'avoir des vidéos avec une plus belle image. Et donc, j'ai un peu joué. En vrai, je l'ai depuis janvier. Et j'ai eu un peu les vacances et je suis sorti, je crois, 3 fois dans la forêt. Alors, je vais vous montrer quelques photos en commençant par la forêt juste à côté de chez moi. Alors, ça, c'est juste pour rigoler. Je sais pas si ça rendra bien les photos. Je pense que vous les voyez. Ça c'est des œufs. C'est des œufs de grenouille. On les voit bien. Et vraiment, on peut zoomer jusqu'à assez loin. Hein. Et là, c'est juste pour vous montrer parce que j'y étais. Ça, c'était le 15 février. Et non, je ne l'ai pas fait passer sur la société FabChess. C'est de ma poche. Ça, c'était le 15 février. Et ça, c'était le 14 mars. Et vous voyez là, les petits sont sortis, mais là, ils venaient vraiment tout juste de sortir. Déjà, il y a encore beaucoup d'œufs. Hein. Et on peut voir, ils sont vraiment à peine développés, avec des petites branchies externes. C'est assez marrant, on dirait un peu des axolotes. Et je suis retourné 22, donc pas longtemps après, hein, une petite semaine après. Et là, vous voyez, ils étaient déjà plus gros, avec leurs petits yeux et tout. Donc petit état et je sais pas si je peux passer. Voilà. Et ça, c'est impossible de faire de la vidéo au téléobjectif. Sans pied. Regardez. Et pourtant, je suis solide. Hein. Bon, d'accord, il fait 3 kilos. Mais et ça grouillait de ouf. C'est trop marrant. Est-ce que l'image est assez précise pour identifier la concentration de CO2 dans l'atmosphère? ça, c'est une des premières photos où j'étais content de moi. Je sais pas, je trouve la composition est marrante. Alors, ça mériterait peut-être d'être recadré un peu, je suis pas un expert, mais. Donc là, je suis au max du téléobjectif. Et ça, c'est un. Alors, c'est pas une mésange, c'est une Sitel torche-pot. Et vous voyez, quand je dis qu'on peut zoomer, je sais pas si vous voyez la qualité, mais en fait, on voit toutes ces petites plumes et tout. En plus, j'ai le soleil du bon côté, j'ai le petit truc sur l'œil et tout. Je suis assez content de cette photo. C'est vraiment une des premières où j'ai fait un truc pas mal. Alors la Sitel, c'est un oiseau qui va plutôt se nourrir sur les arbres. Alors je vous dis des trucs, je suis pas un expert. J'essaie de vous partager des anecdotes que je trouve sympas. Peut-être je me trompe. Voilà. C'est un oiseau qui se nourrit plutôt sur les arbres et elle va avoir tendance à faire son nid dans d'anciens trous, par exemple de pics qui sont plus gros qu'elle. Et du coup, avec de l'argile, elle va rétrécir le trou. Et du coup, torche-pot, ça vient de là, ça fait un peu comme un pot, quoi. Alors là, c'était marrant, cette fois-là, quand je suis sorti en forêt, il y avait plein de diétiques près de l'eau, je pense, qui sortaient pour se reproduire. Et vous voyez que, alors, j'étais assez étonné parce que je le prenais plutôt pour prendre d'assez loin des oiseaux, etc. J'ai pas eu tant d'occasions que ça. Et en fait, pour faire des petits insectes, ça fonctionne bien. Alors, je suis pas en macro, hein, je dois être à, je sais même pas, 80 cm, peut-être quelque chose comme ça. Donc, je suis assez loin, ce qui peut être un avantage. Ah ouais, alors, Planète Terre, je sais plus, sur France 2, j'avais vu Sauvage qui s'appelait avec tous les youtubeurs, là, tous les vidéastes, tous les influenceurs biodiversité qui avaient fait des séquences, qui étaient vraiment incroyables. Mais celui-là, je suis pas sûr de l'avoir vu, Planète Terre. Et ça permet de voir aussi que, avec un objectif comme ça, la profondeur de champ, elle est vraiment pas large. L'insecte, il est à moitié net. Donc ça, c'est des ditiques, c'est des insectes que vous voyez souvent dans l'eau. Et là, je pense qu'ils se reproduisaient. C'était assez marrant comme comportement. Ils étaient paqués. Et d'habitude, quand c'est dans l'eau, c'est assez difficile à voir. Ça va très vite. Ah ouais, je pourrais changer et mettre... je vais mettre photo biodiversité. Bon, j'ai fait une petite sélection, j'ai pas tout. Alors, ça, c'est juste parce que j'étais content de voir un triton. La photo vaut rien, je suis d'accord. Mais juste, il y a pas mal de tritons dans la forêt accessible à pied de chez moi. Et je suis très content. Je suis très content d'avoir des tritons. Un faisan. Pareil, on peut zoomer. C'est quand même un bel oiseau, un faisan. Je l'aurais pas vu si gueulait pas de ouf. Franchement, ça fait trop de bruit. Je me suis demandé ce que c'était. Ouais, le triton est dans l'eau. Alors, j'ai croisé un naturaliste il y a pas très longtemps. Je lui ai montré mes photos parce que j'aime bien mes photos. Et surtout parce qu'il savait moi ce que je prends en photo précisément. Alors que moi, c'est pas évident. Et il me disait le problème des tritons, c'est que ils vont se cacher. Et si, des fois, l'eau est un peu trouble et tout. C'est très dur de les voir. Et eux, quand ils vont faire du comptage, ils les font la nuit. Parce qu'ils n'ont pas peur de la lumière de la frontale ou de la lampe de poche, et la nuit ils remontent à la surface, comme ils ont moins de prédateurs, et du coup ils les comptent la nuit. Apparemment, la nuit, ils se mettent tous à la surface et on peut les compter. Voilà, fun fact. Alors ça, c'était une araignée qui était chez moi. Fun fact, je l'avais appelée Victoria. Et je l'ai gardée un peu avant de la sortir. Alors je me suis pas mal entraîné dessus avec mon téléobjectif, parce que ça, c'est une tégénaire, c'est les grosses araignées que vous avez chez vous. Ça fait des toiles. Ouais, je suis désolé. Fermez les yeux, ceux qui n'aiment pas les araignées. Et par contre, si vous rentrez dans une salle où elle est en train de chasser, elle va s'arrêter et elle va plus bouger du tout. Donc c'est trop facile à prendre en photo. C'est genre le sujet parfait. Et du coup, je me suis un peu entraîné au téléobjectif. Alors, j'osais pas trop la sortir parce qu'il faisait encore un peu froid et moi, ça me dérange pas les tégénaires. Et au moment où je l'ai sortie, je me suis dit, oh là 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 là. Elle est quand même beaucoup moins grosse à tous les coups. Elle m'a laissé ses petits, quoi. Et bah dimanche, ça a pas loupé. Au moment, je fais. Mais c'est quoi ça? Et genre, j'ai 40 bébés tégénaires dans le bureau qui sont impossibles à attraper pour mettre dehors parce que c'est tout petit et ça va trop vite. Et voilà, je sais pas trop quoi faire. Les pauvres, elles vont mourir de faim. J'essaye de leur laisser la fenêtre ouverte. Mais j'ai lu sur internet qu'elles pondent entre 40 et 60. Et j'en ai compté 37 sur les murs et le plafond. Moi, ça me fait pas. Ouais, mais l'aspirateur, je vais les tuer. Je trouve ça un peu triste. Mais bon, voilà. Elle a pondu ici. Quand j'ai des araignées chez moi, je les sors. Mais bon, voilà. Fabchess. Ouais, c'est cool. Alors, attendez. Bon, un canard, bon, c'est juste pour vous montrer que c'est rigolo. On voit l'eau sur le plumage. Bon, j'avoue, c'est pas la meilleure. Des grenouilles, j'en ai pas mal. Cette année, l'an dernier, il y avait quasiment pas d'eau dans la forêt. Cette année, il y en a partout. Il y a des grenouilles absolument partout. C'est un truc de fou. Elle est assez marrante, là, l'environnement aussi. Alors ça, c'est pas une très belle photo. C'est juste pour vous montrer. Ça s'appelle des grains pro. C'est un oiseau qui va voler comme ça jusqu'en bas de l'arbre et il va monter en cherchant des bestioles et ensuite il va voler sur l'arbre d'après et il va monter comme ça en cherchant les bestioles. Et je crois que ça peut que monter, je crois pas que ça puisse descendre, contrairement aux sittelles qui peuvent descendre le long des troncs. Et ça, c'est un oiseau qui est très petit, qui est discret, qui va jamais dans les mangeoires parce qu'il se nourrit sur les troncs. Et du coup, c'est pas très connu alors que vous en avez possiblement dans votre jardin. Ah, pas bête, c'est pas de W. Fil polarisant pour prendre des photos dans l'eau. C'est pas bête ça. Et feuilles de papier avec appât. Je sais pas trop à quoi elles réagissent. J'ai réussi à mettre 3-4 dehors. Il n'y a pas de photos de félin. Hein. Comme pique-et-pêche. Ah, et pique-et-pêche, ils font ça aussi. Ils arrivent en bas des arbres, ils montent. Je savais même pas. Là, c'est un petit écureuil que j'intriguais. J'ai réussi à m'approcher un petit peu, mais pas plus que ça. J'aime bien cette photo parce qu'on voit un peu, on voit un peu sa queue qui dépasse ici. Mais bon, il y a la petite branche et je suis un peu loin. Il avait un petit truc sur le nez, je sais pas trop si c'est une blessure ou. Mais ouais, c'est assez impressionnant, comme on peut zoomer. Alors ça, c'est pareil, c'est pas une photo très jolie, c'est juste pour vous montrer un peu de biodiversité. Ça, je l'ai montré. Au gars que j'ai croisé qui fait du comptage de biodiversité et qui connaît mieux que moi. Et en fait, ça, c'est une larve de salamandre. Et la différence, c'est que il y a une tache blanche là, vous la voyez un peu en haut des pattes. Et si c'était une larve de triton, il n'y aurait pas ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on identifie Donc il y a des salamandres dans la forêt, même si j'en ai pas encore vu. Mais je crois qu'il faudrait plutôt aller de nuit. Bon, encore une petite grenouille qui se laisse prendre. J'en ai quelques-unes. Alors ça, c'était marrant. Est-ce que j'ai l'autre? Ah ouais, non, celle-là, elle est plus drôle. Alors là, vous voyez, c'est encore un triton. Mais plus proche de la surface. Par contre, il y a plusieurs espèces de tritons et j'en suis pas encore là. Mais là, on le voit un peu mieux. Et puis après, il y avait des escargots aquatiques d'eau douce. Hein. Et ça, c'était un truc de ouf. Quand je zoomais dessus, on le voit bouger, on voit... Je sais pas si on voyait vraiment son sang, mais... Et au final, les couleurs sont assez belles. Certes, c'est juste un escargot aquatique, mais je trouve la photo est pas trop mal. Encore une petite grenouille. Avec un peu de transparence, comme elle est en contre-jour. Surtout des grenouilles. Alors ça, c'est des insectes qui se font un fourreau avec des petites brindilles ou des petites pierres. Je sais plus comment ça s'appelle. Et je l'ai pris en photo parce qu'elle faisait un truc trop marrant, c'est que elle avançait avec la tension de surface. Genre, elle appuyait ses pattes comme ça sur la surface de l'eau et elle arrivait à avancer comme ça. J'avais jamais vu ce type de comportement. Souvent, on les voit qui marchent sur le fond. Si vous faites attention sur des mares assez claires ou des étangs assez clairs, vous en verrez au fond. J'ai oublié le nom de ces insectes qui se font un petit fourreau. Il y en avait aussi quand j'étais en Norvège en Erasmus. Même dans des lacs assez froids, vous en voyez. Donc voilà, c'est vraiment un genre de petit ver. Et là, elle pagayait sur la surface, quoi. Trop rigolo. Petit mulot, une petite souris, je ne sais pas exactement. Je me suis approché tout doucement. Est-ce qu'on me voit dans son regard? Là, c'est moi. Probablement. Ouais, franchement, c'est. Je suis quand même assez impressionné par ce que peuvent rendre ces appareils aujourd'hui. Je me suis approché tout doucement. J'ai essayé de le prendre de plus en plus proche jusqu'à ce qu'il file dans son trou. Il était juste devant le trou là. Il était peut-être autant intrigué que moi. Mais il n'avait pas d'appareil photo lui. Ça lui a pas laissé de souvenirs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une petite mésange qui venait de faire sa toilette. Donc elle est encore toute mouillée. Pareil, j'ai le soleil dans la bonne direction, donc ça rend un truc pas trop mal. Et c'est marrant parce que vous voyez, quand ils ont les poils mouillés, on voit sa peau ici, je pense. Le temps que ça sèche. Belle griffe quand même, hein, les mésanges. Belle griffe. Et juste après, j'ai un rouge-gorge. Là aussi, j'ai du bol sur l'orientation. Et en plus, c'était la bonne heure, ça donne des couleurs qui sont pas trop mal. J'en ai une autre de l'autre côté. Rouge-gorge, c'est toujours assez populaire comme oiseau. J'en ai un dans mon jardin, il s'approchait au début, puis maintenant je le vois plus. Mais il venait à, je sais pas, 3 mètres. Une fois j'ai ouvert la porte, il était à 2 mètres de moi, il m'a regardé comme ça au lieu de s'envoler. Du coup je l'ai regardé aussi. Ah, Soarmine, elle s'en arrache pour le nid, les mésanges? Elle s'arrache des plumes? Je savais pas que ça faisait ça. Ah, je savais pas du tout que ça faisait ça, c'est marrant. Donc là, c'est les vacances. Une petite rivière avec une épave échouée. Je trouvais ça assez joli. J'ai pas eu trop 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 d'animaux. Donc il y a un peu des fleurs et il y a un peu des paysages. Un petit papillon avec un motif assez rigolo sur l'œil, que j'ai eu à peu près net. Il arrêtait pas de s'envoler et de changer d'endroit, ce petit coquin. Ça doit être le même. Le même. C'est marrant parce que, du coup, quand on zoome avec le téléobjectif, on est là. Mais, genre, il a des poils sur les yeux, vraiment. C'est assez poilu en vrai, un papillon, quand on regarde de près comme ça. Par contre, je connais pas les espèces de papillons. On dit des cerfs, exactement, Fabchès. Il a raison, ton fils. Une araignée, encore une. On voit les petits yeux et tout. Et elle, quand je me suis approché, elle est partie de sa toile et elle s'est plaquée comme ça. Elle avait peut-être peur que j'en fasse mon casse-croûte. Sacré, ça doit avoir un nom, hein, les mandibules à l'avant, là. Mais belle pièce, hein. Alors ça, c'est une petite cétoine dorée. C'est un petit scarabée. Et c'est assez connu parce que dans les composts, vous pouvez avoir des larves blanches. Ça peut être des larves de hanneton. C'est pas terrible parce que ça mange les racines. Ou ça peut être des larves de cétoine. Et dans ce cas-là, elles mangent que la matière morte. Et c'est plutôt cool de les garder. Des larves blanches assez grosses. Vous regardez sur Internet pour différencier les deux. Et les larves de cétoine, bah, faut les garder. Ça aide à faire le compost. Et je crois que la phase adulte se nourrit de nectar, donc c'est pour ça qu'elle est dans une fleur. Ça donne un style, quoi. Et elle aussi, elle a l'air de bien aimer le nectar. Ça fait tout de suite alien quand même quand on zoome sur les insectes. Mais photo rigolote. Ça, c'est si la mer vous manque. La mer Méditerranée, en l'occurrence. C'était déjà une belle pièce, ce crabe. Il n'avait pas trop de cailloux où se cacher là, donc il essaye de me dissuader de l'attraper. Ça a fonctionné, j'ai pas été l'attraper. Bah merci, merci à toi, omelette au fromage. Faut faire un animal blind test. Ça, c'est des fleurs d'un genre de petit cactus. Avec des pointes comme ça, pas aloe vera, mais un peu ce style de ces formes-là. Encore des fleurs. Des fleurs, mais avec une abeille. Une abeille qui. C'est marrant, c'est marrant, on voit tout, on voit le pollen sur l'abeille et tout, c'est trop drôle. Je suis allergique, j'ai pris trop cher pendant les vacances. Alors là, c'est une araignée. À mon avis, c'est la même famille que les tégénaires, vu le motif. Donc, je dirais un peu, allez, à 50% de certitude que c'est la famille des araignées-loups. Je pense que ça s'appelle comme ça. Mais ouais, ça va. Le soleil est du bon côté, elle est relativement nette. Ça a des pics sur les pattes. C'est un style, hein. Là, c'est de face. Pareil, c'est un style. Elle est encore mieux, je trouve. Au moins, elle se camoufle pas trop mal, hein. Elle se camoufle pas trop mal. Petite sauterelle slash criquet slash. J'avoue, sauterelle criquet, j'ai du mal. Peut-être un peu trop de lumière dans sa tronche. Je sais pas si ça se rattrape. Encore une, encore une. Et ce coup-ci, en train de manger une fleur de genêt, je pense. Les arbustes un peu comme ça avec plein de fleurs jaunes. On voit ses mandibules à l'œuvre là, je sais pas comment ça s'appelle. Elle est en train de manger. Ah là, il y en avait une timide. Cette photo est très drôle quand même. Alors il y avait beaucoup de vent, donc ma compagne m'a aidé à prendre la photo en stabilisant la fleur, sinon c'était impossible. Avec le vent, c'était impossible. Surtout que la profondeur de champ est très faible, donc ça joue pas à grand-chose. Petit papillon, mais de derrière, elle est un petit peu ratée. Un autre papillon qui s'est laissé prendre tranquillement. Je sais pas ce qu'il fait. Il n'est pas tout à fait net. On dirait qu'il est en train de boire dans la goutte de rosée là. C'est marrant. Bon, les espèces de papillons, j'avoue que je connais pas trop. Des petites araignées, c'est marrant, j'ai presque les deux nettes. Je sais pas pourquoi il y en a une beaucoup plus grosse que l'autre, par contre. Sur leur toile. Un petit scarabée couvert de pollen. Une petite araignée sauteuse, là. Je les trouve marrantes, ces araignées. Et dès que je m'approchais, elle se cachait derrière, j'attendais un peu, elle ressortait, j'essayais de m'approcher, et ça c'est la plus proche que j'ai eue, mais ça c'est un peu petit pour ce que j'ai quand même. Alors ça c'est la classe quand même. Moi j'aime bien ces bestioles-là, une belle libellule. En plus c'est des sujets qui sont assez gros, et à mon avis, ceux-là tu les as pas au macro quoi. Donc c'est avec le téléobjectif que tu auras les meilleures photos de ces animaux-là. Elles ont tendance à se reposer au même endroit qu'elles viennent de décoller, donc c'est assez pratique aussi ça. Si tu identifies, elles ont souvent un point de vue en hauteur, sur une haute herbe. Alors là, c'est pas le cas hein, parce que je les fais fuir, mais quand elles chassent, elles se mettent en hauteur et elles reviennent sur le même point. Et donc, si tu te places correctement, elles vont revenir sur le même point. Et c'est. Alors, je crois que cet animal est connu pour être le prédateur avec le meilleur taux de chasse. Je sais plus exactement, mais elle chope sa proie dans. Je vais dire une bêtise, mais 80% des cas, un truc comme ça. Mais en tout cas, si vous regardez parmi les prédateurs, ceux qui ont le plus souvent leur proie par tentative, je crois que la libellule, c'est celle qui s'en sort le mieux. C'est vraiment une killeuse, quoi. Très impressionnant comme insecte. Des petites fleurs. Celle-là, elle est pas trop mal. J'avais vu une expo juste avant où ils prenaient un. C'était plein de fleurs, de graines volantes ou de graines qui étaient dispersées dans l'environnement par différents procédés. Il y a des photos qui ressemblaient à ça. Ça m'a un peu inspiré. Elle est marrante. Ça, je pense, c'est une cétoine, mais une cétoine noire. Ça a peut-être un autre nom. Libellule ou odonoate. Moi, j'appelle ça libellule. Ah, odonoate, c'est tout l'ordre. Ah ouais, apparemment, odonate, il y a les demoiselles et les libellules. Et de mémoire, les demoiselles, elles ont les ailes qui se replient quand elles se posent, et pas les libellules. Ah, et là, c'était la plus belle prise des vacances, et c'est. Ce sont les dernières photos. Donc là, c'est un lézard osselet. C'est le plus grand lézard d'Europe. C'est une belle bête. Alors, faut savoir que sur le lézard, là, en fait, c'est leur tympan. C'est leur oreille à l'arrière de la tête. Donc, vous voyez, belles écailles. Et c'est un lézard osselet. Alors, ça se reconnaît parce qu'il y a ces taches bleues qu'on appelle des ocelles. Et à mon avis, celui-là, c'était déjà une belle bête. Hein. Belle patte. Donc là, j'étais un peu loin, j'ai essayé de m'approcher tout doucement, de plus en plus doucement, et j'en ai une quand même assez belle, hein. À peu près nette, non, elle est nette. Elle est nette, on voit les griffes, on voit les yeux, on voit la tête. Oh, t'aurais pu te gratter un peu l'œil, là, t'as des soucis. Et très stylé, je suis assez content de celle-là, c'est la dernière photo que j'ai prise avant de remballer. Et en fait, il n'était pas très loin d'où j'étais. Et deux fois, je suis passé et j'ai entendu filer comme ça. Et du coup, j'ai fait tout un tour pour arriver par un autre endroit et le voir d'assez loin. Et j'ai fait ah ouais, c'est ça. Et c'est relativement rare quand même. Hein. C'est beaucoup plus rare que des lézards des murailles ou des lézards verts. Et du coup, voilà, c'est un peu ma plus belle prise des vacances. C'est des jolis animaux. Ouais. Ils ne se sont pas attrapés. Hein, ils sont beaucoup plus rapides que vous. Que moi, en tout cas. Mais c'est des jolis animaux. Et... Non, c'est pas ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Et les arts... Non, les arts osselets. Les arts osselets. Je crois qu'ils mettent. Diurne de couleur vive, fait partie des espèces patrimoniales du sud de la France. Sa grande taille en moyenne oscillant entre 55 et 70 cm pour les mâles. Comportement, font la rareté. Nanana. Et je pense même qu'il peut y en avoir des un peu plus grands. Des individus de plus de 90 cm de long ont été observés. Mais déjà, 55-70 cm, c'est beaucoup hein, pour une bête de chez nous. Fabchette, j'ai confondu avec Calopteryx. Elle repliée à l'arrière, à l'arrêt et libellule. Ouais. Ouais, ouais. Moi j'appelle ça demoiselle et libellule. Mais. Donc voilà. C'était mes petites photos, pas que des vacances, aussi un petit peu avant de la forêt tout près de chez moi. Et puis, ouais, non, c'est un investissement. J'espère que je le garderai longtemps et que je l'utiliserai. J'ai un peu hésité. Ne serait-ce aussi que par l'impact de la fabrication et J'ai pas tant de temps pour aller prendre des photos, mais vraiment, ça permet quand même de voir des trucs. C'est assez cool. Gif heureux, bah c'est un reptile, le lézard, non? Un reptile, le lézard. Et l'autre jour, j'étais vite fait dans la forêt, j'avais pas l'appareil. Et il y a un endroit, une fois, où j'ai vu une couleuvre à collier. Et du coup, je vais check de temps en temps. Et j'arrive, c'est un étang assez grand. Donc, tu dois traverser les broussailles et tout. J'essaye de pas choper de tiques. Et j'arrive et je regarde comme ça. J'arrive tout discrètement et je regarde de loin. Elle est où? Est-ce qu'elle est. Il y a différents endroits où elle peut être. Et j'essaie de la voir comme ça. Puis au bout d'un moment, je sens les herbes là sur mes jambes et je me dis bah je vais pas rester dans l'air pour pas choper de tique et je vois qu'il y a un tas de bois à côté et comme ça je me décale sur le tas de bois pour pas avoir les jambes dans l'herbe et qu'est-ce que je vois? La queue de la couleuvre qui disparaît entre les ronces. Genre pendant 2 minutes, elle était à côté de moi à 50 cm et je l'ai pas vue. Je l'ai vue filer. Ouais, bah j'ai essayé couleuvre vipère. Des fois j'en vois dans le sud mais alors vipère, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Des couleuvres vipérines, des couleuvres qui vont dans l'eau là. Il y en a pas mal et j'essaie d'en prendre en photo, mais même quand il y en a, c'est dur à voir. Hein. Ça file vite, ça se cache longtemps. Orvée, ouais, j'en ai pas encore croisé dans la forêt. Par contre, un orvée, c'est pas un serpent. C'est un lézard apode. C'est un lézard qui n'a pas de pattes. Elle m'a pris en photo, peut-être, j'ai pas vu. Je l'ai pas vu filer, donc je ne sais pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ceux qui sont restés, y compris pour mes photos. Est-ce que vous avez une idée de chez qui vous voulez aller? Je peux vous envoyer chez Tout ce qu'on prend pour de la vulgarisation. Je vais peut-être faire ça, il m'a envoyé des raids de temps en temps. Je vais faire ça, je pense. Donc voilà, j'espère que le programme de ce soir vous a plu. Ce coup-ci, j'avais pas la facilité d'en inviter, donc j'ai pris un peu de temps pour lire des publications. Et voilà, j'espère que c'est pas trop redondant, parce que c'est un peu les mêmes sujets qui reviennent. J'espère que vous avez appris des choses. Et voilà, ben je vous souhaite. Je vous souhaite une bonne semaine jusqu'à la prochaine et bonne nuit évidemment, bonne soirée, bonne nuit et à bientôt sur le net. Allez, salut.